Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Et 13h04 sur RMC, salut à tous, bonne fête à vous, merci d'être avec nous en ce 31 décembre. On est ensemble pendant 3 heures de live dans l'Intégral Sport jusqu'à 16h. Après, on laissera la main à Christophe Cessieux pour votre émission spéciale JO en route pour Paris 2024, alors qu'on est maintenant à moins de 24 heures de la nouvelle année. En attendant, on est avec notre membre de la Dream Team RMC, Julien Brugnot. Salut Julien.
Salut Flora, salut à tous.
Bonne fête à toi aussi.
Et également.
Heureusement qu'on a le top 14 et qui est là, le top 14, pour nous tenir en haleine pendant cette période des fêtes. 14h pour le coup d'envoi de Castres-Perpignan. On reviendra aussi sur la belle victoire de Bayonne hier soir sur le leader, le Racing 92. Camille Lopez, le demi d'ouverture bayonnais, sera notre invité. Comme tous les dimanches, votre actualité olympique. Florian Gringbeau, médaillé de bronze en vitesse par équipe pour Dany Gio, sera notre invité. Et puis sans oublier la Première Ligue, parce qu'on joue aussi en Angleterre en ce 31 décembre. On fera le bilan de la période des fêtes avec Julien Laurence. Et puis Johan Giroud, l'ancien un défenseur d'Arsenal, viendra nous parler des Gunners qui ont perdu gros pendant cette période. En ce week-end de nouvelle année, le top 14 continue de battre son plein. On a vécu une belle journée hier et ça va continuer aujourd'hui avec le dernier match de cette année 2023. Castres-Perpignan, coup d'envoi à 14h avec Arnaud Souk au commentaire et qui est déjà en place. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut Julien, salut à toutes et à tous.
Salut.
Alors dis-nous tout, quelle ambiance à Pierre Fabre en ce 31 décembre? Est-ce que c'est chaud?
Alors une ambiance, c'est pas très chaud. Hein. C'est ambiance maussade, ambiance pluvieuse pour l'instant. 8 degrés malgré tout au coup d'envoi. C'est pas si mal que ça. Je me souviens avoir fait il y a quelques années un match le 31 décembre du côté d'Armandie à Agen où il faisait moins 2, moins 3 degrés. C'est beaucoup plus agréable d'avoir 8 degrés, même si donc il y aura de la pluie. Ça veut dire voilà un jeu qui forcément va être marqué justement par l'humidité cet après-midi pour cette rencontre entre le Castres Olympique et les Arlequins de Perpignan. Le Castres Olympique, un 6e du classement général de ce top 14, qui veut évidemment rester, on va dire, dans le bon wagon, cette fameuse place de 6 hein, qui lui permettrait, bon, même si on est encore très très loin de se qualifier pour les phases finales de ce top 14. Et du côté de Perpignan, voilà, on vient un petit peu détendu, j'ai envie de dire. On a gagné le match qu'il fallait gagner la semaine dernière face à l'aviron bayonnais. Il y a pas mal de changements qui ont été opérés du côté de Franck Azéma pour cette rencontre. Mais attention, on vient pas non plus en victime expiatoire du côté perpignanais. Il s'agira d'essayer malgré tout, si possible, de prendre des points aujourd'hui.
Ouais, Julien, c'est pas la plus belle affiche de cette 11e journée du top 14, mais il y a de l'enjeu effectivement pour les deux équipes. Deux enjeux totalement différents. C'est vrai que pour le CO, il s'agit de valider cette sixième place et d'arriver en 2024 dans le top 6.
Non, il est validé, mais même ils peuvent même finir deuxième de ce classement sur l'année. Non, les Castrés qui ont fait un très très bon début de championnat. Après, par contre, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où cette rencontre n'est pas intéressante. Bien au contraire, ce qui est
pas la plus belle affiche sur le papier.
C'est pas la plus belle, effectivement, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les deux équipes affichent 2-15 de départ qui sont vraiment très intéressants. Je pense que ça va produire du jeu. Les Perpignanais qui ont l'occasion, parce que pourquoi pas. Après, si on regarde sur le papier, il y a peut-être un manque de confiance du côté de Perpignan, mais ils ont une équipe tout à fait compétitrice pour aller faire quelque chose, pourquoi pas, dans l'équipe de Jérémy Davidson.
Juste une petite statistique quand même, je me suis amusé à faire la moyenne du nombre de points encaissés depuis le début de la saison lors de ses déplacements de l'USAP. 44 points malgré tout, donc ça veut dire déjà que, bon, en général, on voit quand même des matchs très très animés quand Perpignan est là, mais sur ces 44 points de moyenne, on se souvient notamment de ces 43 points encaissés au stade Ernest Vallon le 11 novembre dernier, une victoire 43-34 des Toulousains, mais les Perpignanais avaient réalisé une deuxième mi-temps de feu, notamment avec Mathieu Acébès qui sera titulaire pour la première fois de la saison aujourd'hui à l'aile. Donc voilà, vraiment il y a de quoi faire du côté Perpignanais, de quoi avoir une rencontre très très animée pour cette dernière en rugby de l'année 2023.
Ouais, tu fais bien de souligner hein, cette rencontre contre le Stade Toulousain qui à la fin du match, ils avaient fait douter le Stade Toulousain quand même, qui avait fait le boulot en première mi-temps. Mais voilà, une équipe de Perpignan qui a des bons joueurs qui, quand ils jouent libérés, sont capables de faire de très bonnes choses. Le week-end dernier, moi, juste pour mémoire, le week-end dernier, ils ont fait un grand match contre l'aviron bayonnais. Mmh. Voilà, même si l'aviron bayonnais a du mal à l'extérieur, je trouve que Perpignan a joué en équipe, a produit un joli jeu. Et pourquoi pas aujourd'hui libérer. C'est vrai qu'il parlait tout à l'heure de la défaite de Montpellier qui met finalement Perpignan 13e, qui garde Perpignan à la 13e place. Ah oui. Et ils vont peut-être jouer un peu libéré. Ça peut être dangereux pour les Castrés.
On verra la réponse tout à l'heure, 14h, donc pour le coup d'envoi de ce Castres-Perpignan. Merci Arnaud. On te retrouve tout à l'heure pour un avant-match en longueur avec toi aussi, Julien. Vous le savez, sur RMC, tous les week-ends, on vous tient évidemment au courant de l'actualité olympique. On est très exactement à 208 jours maintenant du début des JO 2024 à Paris.
RMC, en route pour Paris 2024.
Vous ne manquerez rien de toute la compétition sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tous les athlètes français que vous suivrez l'été prochain sont déjà sur RMC, à l'image du médaillé de bronze en vitesse par équipe au dernier JO en cyclisme sur piste, Florian Gringebaud. Bonjour Florian, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir.
Bah, bonne fête à vous déjà, parce que merci d'être avec nous en ce 31 décembre. C'est pas toujours simple. J'imagine que vous allez quand même être raisonnable ce soir, parce que dans 3 jours maintenant commencent les championnats de France. Hein.
Extrêmement raisonnable ce soir, c'est le mot. Parce qu'il y a dans très peu de temps, il y a les championnats de France, exactement 3 jours. Et après, on enchaîne directement sur les championnats d'Europe. Donc, on a un début d'année très très sportif.
On parle de ces championnats de France, c'est une compétition importante pour vous. On rappelle que vous n'avez encore jamais décroché de titre de champion de France chez les seniors, en tout cas.
Oui, j'ai jamais encore décroché de titre de champion de France chez les seniors. D'une part, parce que ma spécialité reste la vitesse par équipe, qui n'est pas pratiquée sur les championnats de France, mais seulement sur les compétitions internationales et les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'un titre de champion de France, c'est toujours plaisant.
Alors, on ne dit pas de titre de champion de France. Bon, quand même, au palmarès, il y a une médaille olympique, la médaille de bronze par équipe. Vous en avez parlé au dernier JO. C'est un moment, j'imagine, qui reste encore dans votre tête, même si on est 3 ans après.
Évidemment, c'est... En fait, ce moment-là, il est pour moi... Quand les moments sont durs à l'entraînement, je repense à ce moment-là et je me dis, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me bats. Donc, évidemment, ce moment est toujours gravé, est toujours là, même maintenant.
Il y a eu cette médaille de bronze au JO en 2023, il y a eu médaille d'argent aussi dans la même discipline au Mondiaux en 2021. Vous avez déjà un très beau palmarès, et je ne l'ai pas dit encore, mais vous avez seulement que 23 ans, finalement, c'est fou.
Oui, c'est vrai que, bah, en fait, si pour la petite anecdote, les Jeux Olympiques étaient ma première compétition internationale chez les seniors.
Enfin, ouais, ça va, belle entrée en matière.
Donc c'est vrai que ça a été une belle entrée en matière, et du coup après c'est suivi avec la médaille d'argent sur les championnats du monde de juste après. Là je reviens de blessure, j'ai eu une saison un peu compliquée. Mais dernier championnat du monde de 2023, j'ai décroché une médaille de bronze en vitesse par équipe avec mes coéquipiers. Donc la machine est relancée et on a comme objectif de faire une plus belle couleur pour Paris.
On est avec Florian Gringebaud d'Intégral Sport sur AMC, notre pistard français. Vous parliez de blessures, comment vous vous sentez justement? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette saison compliquée, comme vous nous le dites?
Alors en septembre 2022, je me suis malheureusement tombé dans l'escalier et je me suis fait un croisé.
Ah oui, donc blessure à domicile en plus.
Blessure à domicile, juste avant les championnats du monde qui se déroulaient à 50 ans et demi, deux semaines juste avant. Donc ça a été compliqué, j'ai vécu ça dans les tribunes du coup, mais du coup j'ai pu travailler sur moi, et du coup là je reviens sans blessure, sans pépin, plus rien, avec qu'un seul objectif, travailler pour aller décocher cette belle médaille.
Comment on le vit ça, justement, une blessure qui est peut-être la pire pour un sportif d'haut niveau, encore plus pour un pistard sur le vélo, c'est évidemment très important ce genou. Comment vous le vivez aussi jeune d'avoir déjà une blessure aussi importante qui vous a tenu éloigné des pistes longtemps,
hein? Ça m'a permis de prendre pas mal de recul, de pouvoir travailler sur d'autres aspects qui me manquaient. Donc c'est toujours intéressant de pas être au devant de la piste, on va dire. Donc ça renforce. Et maintenant, je sais pourquoi, en fait, je travaille, je fais du vélo, c'est pour aller décrocher cette médaille olympique. Donc, quand on a toujours cet objectif dans la tête, les moments les plus durs peuvent être, entre guillemets, simples.
C'est ce qui vous tient, finalement, cet objectif pour les JO. Julien, est-ce que c'est particulier, quand même, d'avoir une blessure aussi jeune? Ça peut entamer parfois une ascension, finalement, d'un athlète. Ça peut couper court aussi. Est-ce que t'as vécu ça, toi, dans ta carrière ou...
Non, écoute, je touche du bois. J'ai jamais eu de grosses blessures qui m'ont écarté les terrains, en tout cas. Mais j'étais un peu interpellé, quand même, concernant cette blessure du genou. Alors, je comprends mieux maintenant, parce que tu t'es fait ça dans les escaliers. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, en fait. C'est quoi comme blessure qu'on peut rencontrer dans le cyclisme?
Dans le cyclisme, c'est plus des blessures d'usure, tout ce qui est tendinopathie et ces choses-là. Après, quand on chute, souvent c'est clavicule.
Ah oui, vu les tests que vous avez. Ouais.
Nous, c'est plus des blessures d'usure dues en fait à la pratique et à la création de force en musculation et sur la piste, qui sont en fait génératives de blessures sur les articulations. Mais sinon, globalement, on n'a pas de blessures impact ou de blessures comme j'ai pu avoir.
Et par rapport justement à ta blessure des croisés, justement, nous, à chaque fois qu'on se blesse au croisé, on fait un retour par le vélo, justement, parce que c'est un sport qui est porté. Et du coup, ça limite un peu les contraintes sur le genou. Du coup, ça, est-ce qu'il y a un impact, toi, par rapport au croisé? Parce que bon, c'est un fait de vie, quoi, en fait, oui. dans les escaliers, oui, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à ta musculature, au renforcement que tu as dû faire certainement autour du genou? Et est-ce que tu as eu du mal à revenir ou non?
Alors, en fait, pour la petite anecdote, je suis tombé dans les escaliers en allant chez le kiné. Donc la prise en charge a été très rapide.
Immédiate.
Ouais, je rigole, mais c'est pas drôle, pardon Florian. C'est assez
improbable. Le mal est fait, mais c'est passé, il est revenu.
Et du coup, c'est vrai que du coup la prise en charge a été ultra rapide. Et c'est vrai qu'on a un capital, on va dire, de membres inférieurs quand même important.
Bah oui.
Donc la rééducation a été plus simple. D'autre part, j'ai pas été opéré parce que on est dans un sport dans l'axe. Et on n'a pas besoin, en fait, d'opération. Et par chance, ça arrive, je crois, les statistiques, c'est 5% de chance. Ça s'est re-cicatrisé. Donc la cicatrisation n'est pas aussi forte que le ligament.
Oui, que s'il n'avait pas été, oui, bien sûr.
Normal. Mais il y a quand même quelque chose qui soutient tout ça. Donc,
à partir du moment où tu renforces musculairement l'articulation, effectivement, et que tu restes dans l'axe, comme tu dis, sur le vélo, il n'y a pas de risque. Moi, je connais des joueurs de rugby, même des ailiers qui ont décroché des vastateurs, qui n'ont plus de croisés. À partir du moment où il y a un renfort musculaire.
Le renfort musculaire m'a permis, en fait, aujourd'hui, je ne ressens aucune instabilité.
Ouais.
Et, du coup, j'ai fait un petit séjour de 3 semaines au CERS, et à partir de ce moment-là, je suis remonté sur le vélo. Ma première Coupe du Monde, elle a été début février. Et j'étais remonté sur le vélo j'ai repris mon vélo en décembre. J'arrive à l'INSEP le 2 janvier, je crois, il me semble que c'est ça. Et on me dit 40% de déficit de force sur le genou gauche. Et là, je me dis, waouh, ça va être dur. C'est dur. Et au final, début février, je décroche une médaille de bronze sur une Coupe du Monde avec mes coéquipiers. Donc, la rééducation a été très intense.
T'as dû manger du Cybex à volonté, non? Hein?
Voilà.
C'est quoi ça?
Cybex, c'est une machine de guerre, en fait, qui permet de récupérer de... peut-être que tu pourras mieux l'expliquer que moi, mais en fait, c'est une machine où, en fait, tu travailles dans une angulation qui est définie petit à petit, et tout est contrôlé par un ordinateur qui te permet de récupérer ta masse musculaire beaucoup plus vite.
Des choses comme ça, ouais.
D'accord. C'est quand même une histoire assez improbable pour vous, Florian. On va rappeler que vous êtes jeune aussi, à seulement 23 ans. Vous en parliez tout au long de cette rééducation. Vous aviez en tête cet objectif des JO, évidemment, à Paris. C'est ce qui vous a permis aussi de remonter aussi vite sur le vélo et d'être aussi performant. Vous y pensez depuis très longtemps, j'imagine, à ces Jeux à Paris.
Bah, j'y pense depuis que la ville a été candidate, on va dire. Pour moi, ce n'était pas les Jeux de Tokyo, ce n'est pas les Jeux de Los Angeles, c'est les Jeux de Paris. Vraiment cet objectif-là, c'est l'objectif de ma première vie de sportif.
On est avec Florian Gringbeau sur AMC dans l'Intégral Sport, notre pistard français médaillé de bronze par équipe au dernier JO. Justement, on parlait tout à l'heure de cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est là que se dérouleront les JO l'été prochain pour le cyclisme sur piste. Vous l'avez raté cette piste au dernier Mondiaux, puisque vous étiez blessé, vous nous l'avez dit. J'imagine que là, cette fois-ci, vous avez hâte de vivre cette ambiance, mais sur la piste, pas dans les tribunes.
Ah, j'ai vraiment hâte de vivre cette ambiance, que rien que dans les tribunes, j'en avais des frissons, de voir mes coéquipiers, de voir le titre aussi, enfin, les deux titres de Marie Divine et de Mathilde Gros sur cette piste, c'était fou. Donc, j'imagine même pas les Jeux de Paris.
En plus, vous la connaissez parfaitement, cette piste, c'est là où vous entraînez quotidiennement?
Oui, c'est là où je m'entraîne quotidiennement. Là, je suis en train de faire mes bagages, parce que j'étais dans la région de Bourg-en-Bresse, pour revenir sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pouvoir m'entraîner à partir de mardi.
Est-ce que c'est un avantage de connaître cette piste, ou alors l'inconvénient peut être un peu de pression aussi? Comment vous le vivez, comme un avantage?
Comme un avantage, parce qu'on connaît chaque latte de la piste. Saint-Quentin, ça reste... pour moi, pour l'instant, c'est la plus belle piste que j'ai pu rouler. Elle fait 1 mètre de large de plus que les autres pistes. En fait, on est sur un circuit de Formule 1. Et quand on va sur les autres pistes, on a l'impression qu'on fait du karting. Donc non, Saint-Quentin, c'est vraiment un très bel outil.
Et dites-nous tout, vous faites partie de cette équipe de France de vitesse par équipe. Est-ce que vous êtes déjà assuré d'avoir votre place dans ce trio l'été prochain à Paris, ou comment ça se passe pour être qualifié?
On a encore des phases qualificatives de qualifier la nation sur les différents championnats d'Europe, le championnat d'Europe qui arrive très, très vite. Et les Coupes du Monde qui arrivent un peu plus tard dans la saison, en mars-avril, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, on pourra parler de sélection officielle ou quoi. Parce que dans le sport, tout peut bouger. Mmh. En fait, je prends par exemple mon cas par rapport aux Jeux de Tokyo. On va dire que avant mars, en 2020, j'étais pas du tout sur la liste pour aller aux Jeux. Au final, ça m'a laissé un an de travail. Et j'ai pu arriver aux Jeux en décrochant ma qualification en mars ou en avril, si je dis pas de bêtises, en officieux. Et les qualifications sont arrivées un peu plus tard.
Justement,
tout peut arriver.
C'est pas trop dur, justement, parce que moi, à chaque fois, j'entends pour les qualifications, les sélections pour les Jeux Olympiques, c'est pas trop dur d'être sélectionné au dernier moment, en fait. Enfin, oui, parce que c'est le
dernier
moment.
Parce que oui, on a ce projet-là toute la saison.
On rentre dans le money time en termes de préparation. J'ai l'impression que toutes les disciplines, on attend vraiment le dernier moment pour donner les heureux élus.
Mentalement,
comme on le vit.
Ouais. En fait, c'est compliqué dans le sens où on peut vite se tromper d'objectif entre faire une performance sur les Jeux Olympiques et gagner sa sélection sur les Jeux Olympiques. Et du coup, on peut gagner sa sélection sur les Jeux Olympiques et en fait faire une performance qui ne reflète pas en fait le vrai niveau si on avait eu une réelle préparation sans cette course à la sélection.
Parce qu'on cherche les pics de performance, donc il y a des dates bien précises, on les cible, on se prépare en fonction. Donc vous avez la sélection, du coup il faut être bon pour être pris. Après il y a l'événement qui va arriver où il faut être bon. Mais des fois peut-être comme tu dis, on peut se tromper, on peut avoir des pics de performance qui sont décalés et du coup le jour de la compétition finalement n'est pas à son rendement maximum.
Ouais, tout à fait. Ben quand je reprends un peu justement le parcours sur Tokyo, quand je regarde mes chronos que j'avais fait en interne. Ben, ils étaient quand même meilleurs que ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai que, après, on va dire qu'il y a des, comparé à un test en interne et les Jeux Olympiques, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a plein de facteurs différents. Mais sur le chrono, j'avais été plus rapide, justement, sur les sélections par rapport aux Jeux Olympiques.
Il est 13h20 dans l'Intégral Sport sur AMC. On est avec Florian Gringbeau, notre pistard français, spécialiste de la vitesse par équipe. C'est l'une des disciplines qui, on le rappelle quand même, ramène le plus de médailles à la France en cyclisme sur piste. Vous connaissez parfaitement vos deux acolytes ces dernières années qui sont Sébastien Vigier et surtout Réan Hellel, avec qui vous partagez la piste depuis des années. C'est important d'avoir une relation forte justement avec ses coéquipiers sur la piste.
C'est ultra important au-delà de sur la piste parce qu'on s'entraîne tous les jours ensemble. Tous les jours, on est ensemble dans le groupe pour aller vers cette performance collective. Il faut savoir que la vitesse par équipe, c'est, entre guillemets, des perfs individuelles additionnées pour une performance collective, parce qu'on n'a pas de sujet tactique ou d'échange de contact comme on peut l'avoir dans des sports collectifs, en fait. Donc, ça reste ultra important parce que le cyclisme, ça reste un sport qui est dur, d'autant plus la piste avec un côté où on court quand même très peu dans la saison. On est beaucoup dans des phases de travail et c'est justement dans ces phases de travail que le groupe peut faire la différence. On se regarde, on se dit ben c'est maintenant que ça paye, enfin que ce qu'on travaille pour que ça paye justement plus tard.
Vous parlez de cette discipline par équipe justement. Est-ce que vous visez peut-être aussi de vous aligner sur des épreuves en individuel?
Alors pour l'instant c'est pas trop le projet. Après les Jeux, si je continue le cyclisme sur piste, ce serait pour justement faire de l'individuel.
Parce que vous visez peut-être, oui, à terme, d'être plus sur ces épreuves individuelles. Ça change quoi, finalement, pour vous?
Alors, en fait, c'est les caractéristiques, on va dire, physiques des athlètes. Le démarreur, il a un poste... Enfin, le poste que j'occupe est un poste très, très spécifique, dans le sens où ça demande extrêmement d'explosivité.
Ouais, de force, à ce moment-là, pour
parce
lancer.
Que, ouais, parce que toi, tu démarres les courses?
Ouais. D'accord. Et en fait, les deux... Enfin, mes coéquipiers, en fait, ont des profils un peu plus résistants, moins de type d'accélération. Et aujourd'hui, la physionomie du sprint, on va dire, des épreuves individuelles, se tend vers le poste 2 et 3. C'est très rare d'avoir des postes 1 qui font du poste 1 à un niveau stratosphérique.
Ouais, donc ça nécessiterait une reconversion, enfin, encore un autre travail différent pour vous à l'entraînement.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ouais.
Eh ben, on suivra tout ça avec intérêt pour vous. Merci beaucoup, Florian, d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous aujourd'hui dans
et
l'Intégral
bon
Sport. C'était un plaisir. Bonne chance pour les championnats de France qui débutent mercredi prochain et bonne fête à vous surtout. Merci beaucoup.
Merci. Bonne fête à tous.
Merci. Le cyclisme sur piste, il en sera évidemment question tout à l'heure à partir de 16h dans En route pour Paris 2024. Votre émission spéciale JO présentée par Christophe Cessieu avec plein d'invités, dont notamment Mathilde Gros, dont Florian a parlé il y a quelques instants. 13h23 sur AMC. On revient dans quelques instants dans l'intégral sport avec Julien Brugnot. Les actualités olympiques, c'est juste après la pause.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
13h26, on est de retour dans l'Intégral Sport sur AMC. Merci d'être avec nous en ce 31 décembre. Bonne fête à vous si vous nous écoutez et à toute votre famille également. On continue de vous parler de l'actualité olympique alors qu'on est en 2024, dans quelques heures maintenant, année de ces fameux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris l'été prochain et que vous suivrez en intégralité sur RMC Radio officielle. On est avec Léna Marjac pour les dernières infos. Salut Léna.
Salut Flora, salut à tous.
Dans quelques heures, je le disais, on entame l'année 2024, une année riche en sport et on est bien content.
Et oui, parce que ce soir à 20h, le président de la République prononcera ses vœux aux Français et des vœux cette année un peu particuliers, car au-delà de la vie politique et de la situation internationale, eh bien Emmanuel Macron parlera de l'année sportive qui nous attend, car l'on est déjà à 7 mois du début des Jeux Olympiques. Écoutez toutes les informations avec Roxane Lacusca et Nicolas Pelletier.
L'année 2024 s'annonce sportive, très sportive, du jamais vu. À partir du 8 mai 2024 et l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, vous entrez dans un tunnel sportif, explique un sénateur. Ce soir, Emmanuel Macron va donc consacrer une partie de son allocution présidentielle aux événements sportifs qui vont faire 2024 avec une place de choix pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Un événement international qui doit permettre le rayonnement de la France. Le sport, c'est positif et ça rassemble, concèdent certains proches du président. Parfait pour dresser le cap d'une année que l'on souhaite positive. Même si des polémiques sont venues nourrir les sujets autour des JO ces derniers mois, il ne faut pas oublier que cet événement unique et historique va finalement rassembler les Français, explique un conseiller ministériel. Il faut tracer un chemin dans le domaine du sport pour les prochains mois. Ça parle à tout le monde et c'est une dynamique positive pour un pays, souffle un député de la majorité. Emmanuel Macron, qui veut faire de la France une grande nation sportive, en profitera pour lancer la grande cause nationale de 2024. Tout au long de l'année, des temps forts doivent permettre de promouvoir au quotidien les activités physiques et sportives partout sur le territoire.
Voilà Flora, une belle année sportive à venir et on a hâte.
Ah ouais, on est très impatients surtout de voir nos Français briller pendant ces JO.
Oui, hein, parce que pour rappel, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a fixé un objectif de résultat pour l'équipe de France, être dans le top 5 mondial des Jeux Olympiques, soit 16 médailles d'or. Et il y en a un qui espère bien déjà se qualifier pour les Jeux et donc après ramener une médaille, c'est Mehdi Chal qui fait de l'escalade et plus précisément du combiné, donc épreuve de bloc et de difficulté. Et le grimpeur français rêve des Jeux, Maria Azé l'a rencontré.
Il fait partie des grands espoirs de l'escalade français pour les Jeux Olympiques. Problème, mais je dis Schalke n'a pas encore validé son ticket pour la compétition.
Il n'y a que ça qui compte dans ma tête et dans mon entraînement, c'est la qualif pour les Jeux. Je vais mettre tout en place pour prendre ma qualif et aller faire une médaille aux Jeux. C'est l'objectif, ouais.
2023 est pourtant la meilleure année du grimpeur français.
Sur les 4 compétitions internationales où j'ai participé en bloc, j'ai fait 4 podiums, dont 2 victoires et un titre de vice-champion du monde, du coup, et une 3e place. Et donc c'était une super saison.
À 19 ans, le natif de Montreuil a désormais en ligne de mire le prochain tournoi qualificatif pour les Jeux.
Il y en a 2, il y en a un en mai, un en juin. Et ils vont prendre 12 athlètes au cumul de ces tournois. Dans les 12 athlètes, sur tous les athlètes qui participent, il y a les athlètes déjà qualifiés qui ne participent pas. Donc globalement les plus forts, c'est assez accessible. Ouais.
Ses principaux adversaires, ce seront peut-être ses propres coéquipiers. Ils ne seront que 2 grimpeurs français à pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et entre Paul Jempst, Sam Afzou et Michael Mahouem, la concurrence est de taille.
On est tous une bande de potes, du coup c'est pas évident. On a tous envie de prendre notre qualif. C'est les meilleurs qui vont se qualifier et ça on en est tous conscients. Ouais, ça va être la bataille et c'est le sport, c'est ça. Ouais.
Mais je dis, lui s'imagine déjà au Bourget en 2024.
Mon objectif c'est pas de me qualifier au jeu et de faire 20e, c'est d'aller faire une médaille au jeu.
En attendant, il poursuit sa préparation au Pôle France de Voiron avant la reprise de la saison le 9 avril prochain en Chine.
Et chez les Français, seul Oriane Berton a déjà décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques, donc en combiné, et Bassam Mahouem, lui, en vitesse.
Ce 31 décembre est une journée marquée aussi par la fin des travaux de certaines infrastructures pour les prochains JO.
Oui, alors il y a quelques jours, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, a tenu une conférence de presse. Alors d'abord, pour dresser le bilan de cette année 2023 sur le plan sportif, avec une 50aine de titres mondiaux remportés par nos Français, de bon augure en vue des JO. Et bien sûr, Tony Estanguet a tenu à faire une mise au point sur l'avancée des chantiers. Et aujourd'hui, ce dimanche 31 décembre est une date importante, car 84% des chantiers sont terminés.
84% des chantiers seront terminés au 31 décembre 2023 et on a la garantie que l'ensemble des infrastructures nécessaires pour organiser les Jeux seront livrées avant les Jeux de Paris 2024. Il n'y a plus d'alerte particulière et ça c'est vrai que c'est aussi pour nous une vraie satisfaction. Donc on a des infrastructures qui respectent le calendrier et en tous les cas qui seront parfaitement dans les temps des phases de montage pour les enceintes sportives qui vont commencer à partir du mois de mars.
Et justement, il y a un endroit qui est officiellement terminé, même s'il reste encore quelques finitions, c'est le village olympique. 6 ans de travaux pour construire l'ensemble des logements pour les athlètes. Alors dans les prochaines semaines, 9000 arbres et arbustes seront plantés et il y a encore quelques coups de peinture à donner avant la remise des clés à Paris 2024. Ce sera le 1er mars prochain et à cette date, donc l'ensemble des appartements du village seront aménagés. Et cet été, les 15 000 sportifs découvriront une petite ville dans la ville finalement. Écoutez Antoine Duswitch, il est directeur stratégie et innovation à la Solideo, c'est l'entreprise chargée des constructions et des rénovations pour Paris 2024.
Dans des bâtiments existants qui étaient des bâtiments industriels qu'on a réhabilités, eh bien, on voit la future mairie du village. À côté, un beau hall qui sera le centre de fitness, de musculation pendant le village. Dans un village olympique, la place des athlètes, l'Olympic Plaza, c'est vraiment le lieu de rencontre entre les athlètes, les familles, les journalistes. C'est un lieu de vie important.
Et ce qu'il faut retenir aussi de ce village olympique, c'est l'héritage que l'on va en faire parce que c'est 300 000 mètres carrés d'immeubles. Et bien après, les Jeux olympiques seront et les Jeux paralympiques seront destinés aux habitants de Saint-Denis. Et il faut savoir que dans chaque appartement, il y a environ entre 2 et 4 chambres.
C'est pas mal, effectivement. Cette année 2024 sera aussi marquée par des dates clés.
Et oui, on a un calendrier bien précis et bien chargé aussi jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors déjà, pendant ce mois de janvier, on connaîtra les premiers porteurs de flammes. On découvrira aussi la tenue des athlètes. Avant le tirage au sort du Marathon pour tous, ce sera le 31 janvier prochain. Et février signera aussi le début des épreuves test des Jeux Olympiques avant le 16 avril, jour où la première torche du relais de la flamme olympique sera allumée. Ce sera en Grèce à Olympie. Et puis, on arrivera très vite au mois de juillet avec l'ouverture du village olympique et paralympique le 18 et le 26 juillet. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le début de la grande fête pendant 2 semaines. Et puis après, 2 semaines plus tard, ce sera les Jeux Paralympiques.
Tu vas porter la flamme, Julien ? C'est à toi ? Tu ne le dis pas, mais tu es le porteur de la flamme ?
Écoute, j'aimerais bien, mais sur une courte distance par contre.
C'est
sinon,
pas endurant.
Au moins, le porteur de la flamme n'aura pas bonne figure.
Dans l'actualité olympique aussi, Léna, on a lancé, alors c'est assez improbable, cette année de recherche qui a été lancée par la Russie.
Oui, contre un couple d'escrimeurs russes, Sergueï et Violetta Bida. La raison, ils auraient tout simplement participé à un tournoi américain, mais sans l'accord de leur gouvernement. Tous les deux sont donc recherchés depuis mardi en vertu d'un article du code pénal, écrit le ministère russe. Le couple a quitté la Russie pour les États-Unis après l'offensive russe en Ukraine. Mais Sergueï Bida, étant officier de la garde nationale russe et militaire, donc se devait de demander l'autorisation pour participer à cette compétition. Voilà des infos selon l'agence de presse publique russe, la TASS. Et cette semaine aussi, une autre info, justement, la Fédération internationale d'équitation a annoncé que les athlètes russes et biélorusses ne participeraient pas aux Jeux olympiques de Paris, et ce, même sous bannière neutre. Parce que pour rappel, au début du mois, le Comité international olympique avait pourtant autorisé leur participation. Mais en équitation, le système de qualification est basé sur l'année entière, donc de janvier à décembre. Et comme les cavaliers et cavalières russes et biélorusses sont suspendus aussi en 2023, la Fédération internationale a estimé qu'ils ne pouvaient pas se qualifier, donc ne participeraient pas aux Jeux olympiques. Et quand même un petit mot du côté ukrainien, parce que cette semaine, le ministre des Sports a pris la parole. Il s'appelle Matvi Bidny et il appelle un boycott des Jeux Olympiques si les athlètes russes qui soutiennent l'invasion peuvent encore y participer, a-t-il annoncé. Et d'ailleurs, Tony Estanguet s'est exprimé à ce sujet. Lui soutient le CIO sur la décision d'autoriser les athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre au JO.
Nous, on n'a pas notre mot à dire quand les Jeux sont organisés en Asie ou dans n'importe quel continent d'ailleurs sur les éditions passées. Jamais le pays qui organisateur ne pouvait dire on accepte tel pays et un autre on n'accepte pas. Donc c'est un événement universel et ce sont ces instances internationales qui peuvent décider de ça. Moi personnellement, je trouve que les décisions qui ont été prises, je les comprends, je les respecte, je les soutiens. Et quelque part, moi, je trouve ça bien de laisser la possibilité à certains athlètes qui ne sont en rien responsables de ce qui se passe, de pouvoir réaliser leurs rêves en participant aux Jeux.
Tony Estanguet, que vous entendrez évidemment en longueur tout à l'heure dès 16h dans En route pour Paris 2024, votre émission spéciale JO tout à l'heure, 3h consacrée à cette prochaine compétition à Paris animée par Christophe Cessieux avec tous les invités, tous les membres de la team olympique d'RMC. Merci beaucoup Léna pour toute cette actualité olympique. 13h35 sur RMC, l'intégral sport revient dans quelques instants avec Julien Brugnot. On va parler, j'allais dire cyclisme, pas du tout, on va parler rugby logiquement avec toi Julien, avec le coup d'envoi à 14h, on vous le rappelle, de la rencontre aujourd'hui top 14 entre Castres et Perpignan. A tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
13h37, on est de retour dans la bonne humeur sur RMC avec Julien Brugnot en ce 31 décembre. Bonne fête à vous si vous nous rejoignez. Le top 14 qui continue de battre son plein. La 11e journée se termine tout à l'heure avec le coup d'envoi de Castres-Perpignan. Dans quelques instants, à 14h précisément, Arnaud Souk est déjà au stade. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut Julien, salut à toutes et à tous. Effectivement, 8 degrés ici à Castres. La pluie qui est en train de cesser petit à petit et les couleurs, voilà, de, notamment des arlequins de Perpignan, le rouge et le jaune, ce drapeau Seniora qui sont là dans ce stade Pierre Fabre.
Petit point météo avec Arnaud Souk.
C'est important.
C'est, bah, évidemment, les conditions de jeu aujourd'hui, c'est très important. On va parler du CO, si tu le veux bien, déjà, qui doit digérer la défaite à 0 point du week-end dernier face à Montpellier. Pour commencer 2024, à minima dans le top 6, mais on peut avoir encore des plus grandes ambitions.
Ah bah, si ça gagne aujourd'hui avec bonus, le Castres Olympique commencera 2024 tout simplement à la 12e position du classement du top 14 avec 33 points, ce qui serait quand même pas complètement inintéressant pour le Castres Olympique. Il faut dire que voilà, il y a quand même eu un début de saison qui a été marqué par quelques grandes performances de la part du Castres Olympique. D'abord, les Castrés sont invaincus ici à domicile. Ça dure depuis le début de la saison. Ça dure même depuis une défaite contre La Rochelle le 18 février dernier ici à Pierre Fabre. Depuis le début de l'été, donc de la saison, on a battu Pau, on a battu Bayonne, on a battu Toulouse, Oyonnax, Lyon et les Scarlets en Coupe d'Europe il y a quelques jours de cela. Donc vraiment, voilà, on est sur une belle dynamique quand même côté Castrés ici à Pierre Fabre. Il y a eu aussi cette victoire du côté de Marcel de Flandre à l'automne, donc à l'extérieur à La Rochelle, qui a fait du bien aux Castrés, qui leur permettent justement, ben voilà, de prétendre aujourd'hui au très haut du classement général. Donc voilà, c'est une équipe Castrés qui a pas mal de choses à faire valoir, pas mal de choses aussi à faire valoir dans sa composition aujourd'hui. On peut parler des ailiers, enfin des arrières de manière plus générale, Villimoni, Potitou le Fidjien, Adrien Séguré, Julien Dumourant, on peut parler de Santiago Arata également. Tout ça, ce sont des joueurs qui marquent beaucoup d'essais depuis le début de la saison. Castres est tout simplement la 5e attaque du championnat de France, et ça, c'est pas un petit détail quand même quand on sait que les Castrés naviguaient à un essai de moyenne par match l'année dernière.
Ouais, effectivement, autre visage aussi pour le CO. Julien, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe castraise dans ce début de saison? S'ils arrivent à terminer deuxième cette phase aller du championnat, c'est pas si mal, cette fin d'année plutôt.
Ouais, l'équipe qui commence à prendre en forme, hein. C'est vrai que Jérémy Davidson est arrivé il y a peu de temps, et donc du coup il a mis le temps, il a formé son équipe, mais je trouve qu'ils ont adhéré. La problématique du CO entre leur dernier titre et maintenant, c'est qu'ils avaient du mal à adhérer au projet qui leur était proposé. Inconstant. Voilà, maintenant ils ont réglé le problème à domicile. Ils sont généreux pour leur public à domicile. Ils produisent, ils font de très très beaux matchs à chaque fois. Maintenant, le petit tilt, même si c'est pas pour aujourd'hui, c'est les matchs à l'extérieur pour vraiment passer un cap qui, même si il le disait très bien Arnaud, ils peuvent finir second à l'issue de cette rencontre.
Ce qui est quand même assez fou. Effectivement, on parle de ces difficultés à l'extérieur, alors que c'est vrai, Arnaud, à domicile, c'est carton plein, hein, à Pierre Fabre.
Oui, c'est ce que je te disais, Flora, il y a quelques instants, effectivement. Et puis, c'est pas carton plein que face à des petites équipes, hein. C'est quand même carton plein face au Stade Toulousain, c'est carton plein face à la section paloise. Quand on sait le début de saison en particulier qu'a réalisé la section paloise, c'est quand même plutôt très très encourageant. Et puis on a pris les points aussi face à des adversaires a priori un petit peu inférieurs, au Yona, Lyon et Bayonne, et on les a bien pris du côté castré. Donc voilà, je te parlais aussi de cette volonté d'avoir une animation offensive un petit peu plus consistante que ce qu'on avait pu voir par le passé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais qui ont été marqués depuis le début de la saison. Il y a du jeu qui est envoyé. Alors bien sûr, Castres, c'est pas non plus le jeu de main, jeu de Toulousain, des rouges et noirs, des voisins rouges et noirs de Haute-Garonne.
Ah, mais non, c'est les Bordelais, c'est... qui ont.
Oui, ou les Bordelais, si tu veux. Non, mais bon, voilà, je prenais évidemment le slogan des Toulousains pour exemple. Mais c'est quand même pas mal, Julien. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'on avait pu voir par le passé. Il y a vraiment cette volonté aussi. Tu parlais de ce projet de jeu. Il y a cette volonté d'envoyer du jeu. Il y a cette volonté, voilà, de faire plus de passes au contact. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été relativement marquant depuis le début de la saison du côté Castres.
castrés.
Bah, c'est vrai que le CO, souvent, c'était une équipe qui détruisait le jeu adverse, qui ralentissait les ballons dans les rucks, qui était un peu pénible à jouer. C'était un peu leur identité. Hein. D'ailleurs, c'était pour ça qu'à chaque fois, ils arrivaient à s'en sortir contre les équipes telles que Toulouse, qui jouaient un jeu agréable à jouer. Eux détruisaient, créaient un rythme, en fait, que eux seuls maîtrisaient. Mmh. Voilà, aujourd'hui, ils ont changé un peu de braquet. Et puis voilà, et on oublie aussi la victoire à La Rochelle, quand même, qui
j'en ai parlé.
Enfin, moi, c'est moi qui oublie d'en parler. Ah, c'est pas rien, hein, même si La Rochelle fait une saison mitigée. Oui. Mais en tout cas, en début de saison, elle a gagné. C'est le champion d'Europe. Le double champion d'Europe, c'est pas rien.
L'USAP, on va en parler aussi un petit peu maintenant, l'adversaire du jour pour le CO, qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien. Mais le moral est revenu quand même, Arnaud, après la victoire face à Bayonne le week-end dernier.
Oui, clairement, le moral est revenu cette semaine du côté perpignanais. On a coupé 3 jours au moment des fêtes de Noël côté perpignanais. Vraiment, l'ambiance était à la décontraction du côté du camp d'entraînement à Aimé Giral dans les Pyrénées orientales cette semaine. Voilà, il y a une espèce de légèreté qui est accentuée par le fait que Montpellier, en plus lanterne rouge du top 14, n'est pas gagné hier, ce qui fait que voilà, avec son avant-dernière position, l'USAP, on va dire, peut respirer. C'est vrai que l'USAP voyage mal depuis le début de la saison, voyage même très très mal. Je vais vous donner une statistique qui va pas faire plaisir aux Catalans qui nous écoutent. Il y a eu dans l'histoire du top 14, en tout et pour tout, 4 victoires seulement perpignanaises ici sur la pelouse de Pierre Fabre, et surtout la dernière, elle remonte quand même au 3 avril 2010. C'était l'époque où voilà, Perpignan jouait les premiers rôles en top 14. Donc ça dit tout aussi, voilà, des difficultés à voyager de l'USAP depuis le début de la saison, particulièrement ici en terre castrée. Je vous rappelle juste les défaites depuis le début de la saison en déplacement. L'USAP est allé s'incliner à Clermont, au Racing, au Stade Toulousain, à l'Union Bordeaux-Bègles, à La Rochelle. 3 victoires seulement depuis le début de la saison pour les Catalans, tout à Aimé Giral contre Toulon, le MHR et contre Bayonne. Mais on en avait parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai que l'USAP encaisse énormément de points à l'extérieur, 44 de moyenne en déplacement depuis le début de la saison. Mais j'aimerais bien qu'on en reparle quand même, parce que ce match est un socle, j'imagine, de travail pour Franck Azéma. C'était le fameux match à Ernest Ballon, la défaite 43-34, où l'USAP était mené 31-6 à la mi-temps et avait marqué 4 essais, avait privé en deuxième mi-temps le Stade Toulousain de bonus offensif. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler, j'imagine, Julien.
Ah, tu anticipes sur mes pensées. C'est vrai que ce match, pour moi, est révélateur. Hein. C'est une équipe qui est capable de jouer à l'extérieur à partir du moment où elle est décomplexée. Et voilà, faut que Franck Azéma, en tout cas, surfe un peu et repense un peu cette équipe, parce que je me rappelle de Toulouse, ils avaient fait tourner un peu comme aujourd'hui, avec une équipe quand même tout à fait sérieuse, et ils avaient été capables de notamment s'appuyer sur des joueurs phares, hein, comme Farasso, comme il y a pas mal de joueurs qui ont été très importants à Toulouse, et qui ont relancé cette équipe. Acebes est dans l'équipe, lui aussi fait partie de ces joueurs qui font fi de tout ce qui peut se passer de l'environnement, peu importe le domicile ou extérieur, et qui vont montrer la voie, en tout cas, à ces joueurs perpignanais.
Et tu en parlais, Mathieu Acebes, qui est titularisé pour la première fois à l'aile aujourd'hui, lui qui est traditionnellement plutôt placé au centre. Tu parlais de Faasso, qui est également aligné en troisième ligne avec Bachelier et Oviedo. Ça va être une troisième ligne relativement musclée. Puis retour aussi à signaler de Louis Dupichot à l'arrière aujourd'hui côté perpignanais.
Écoute, ça c'est mon petit si on devait faire un petit pari, Louis Dupichot à l'arrière, c'est quelqu'un qui a une belle vision du jeu, qui est bon sur le jeu aérien, et surtout qui, quand il est à l'aile, il est un peu enfermé, et à l'arrière, au contraire, il est capable de mettre des, comme on dit, des coups de pétard, de faire exploser un peu les défenses.
Ouais, et l'USAP, Julien, c'est aussi une équipe, on sent qu'il y a des valeurs malgré tout. C'est vrai que la saison va être compliquée, de toute façon ils le savaient, mais on sent que c'est une équipe qui défend vraiment quelque chose.
Ouais, effectivement, l'année dernière il y a eu quelques départs, mais c'est une équipe, c'est un coin de France où on a ces valeurs de combat, ces valeurs de sacrifice, et c'est vrai que l'USAP le cultive, et ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas les moyens certainement de recruter des grandes stars. C'est fini cette époque où Carter y jouait, où il y avait des grands joueurs qui jouaient. Aujourd'hui, maintenant, ils sont obligés de faire avec leur effectif, mais ils cultivent. Voilà, cet état d'esprit un peu de bataille, de guerrier, et c'est vrai que puis ils sont servis, hein. C'est vrai que quand ils jouent à domicile, le public leur rend bien, les encourage, et voilà, c'est une équipe qui est toujours pas évidente à jouer parce que combattante.
Ouais. Oui, Arnaud.
Oui, non, juste pour ajouter à ce que disait Julien, il y aura aussi une donnée importante aujourd'hui, évidemment. On aimerait bien gagner du côté perpignanais, mais on a fait aussi tourner l'effectif parce que on sait que ça sera peut-être un petit peu compliqué de venir gagner à Castres. En revanche, la semaine prochaine, il y a un match très très important, la réception d'Oyonnax à Aimé Giral. L'USAP a 13 points aujourd'hui, 13e position du classement en général sur 14 avec 13 points. Oyonnax est 11e avec 20 points. c'est une victoire qui sera presque fondamentale hein, pour l'USAP si on veut espérer pourquoi pas même s'éviter une place de barragiste en, en fin de saison, même si on sait que ça sera compliqué.
On y pense déjà Julien, là quand on est du côté de l'USAP, on pense plus à ce match face à Oyonnax à venir le week-end prochain, ou quand même on a celui du CO aujourd'hui en tête qui est malgré tout aussi important, mais peut-être pas leur même combat.
Écoute, côté joueurs, je pense qu'ils sont focalisés sur ce match, en tout cas de bien finir la saison avec cette petite bouffée d'air qu'ils ont eu le week-end dernier contre Bayonne. Après, côté staff, bien entendu qu'on a déjà anticipé, si la s'il y a eu rotation aujourd'hui, c'est bien évidemment pour préparer correctement avec l'équipe type, si j'aime pas trop ça, mais l'équipe type qui va recevoir Oyonnax. On a voulu anticiper les choses, mais après je pense qu'au moment du coup d'envoi, à l'heure où on parle, les joueurs perpignanais sont concentrés sur ce match de Castres, et pourquoi pas, après tout on sait jamais, Castres qui n'a jamais failli à domicile, peut-être qu'aujourd'hui les fêtes, ça bouleverse pas mal de choses, ouais, dans cette période des fêtes, et bien tout est possible.
Période des fêtes, Arnaud, est-ce que c'est la fête aussi dans le stade aujourd'hui, entre 31 décembre?
Oui, mais c'est toujours la fête, hein. Pierre Fabre, on ne loupe jamais une occasion de venir voir un match de rugby. Non, mais c'est vrai, hein, je le dis vraiment, parce que voilà, c'est un petit stade d'une petite préfecture de province, Castres. Voilà, c'est pas non plus la petite ville, mais ça reste quand même la campagne, ça reste un stade de moins de 15 000 places, et forcément, c'est plus facile de le remplir, surtout qu'il y a quand même un sacré socle de supporters ici. On a des supporters catalans et également qui ont fait le déplacement. On les voit là-bas, les Arlequins habillés de rouge et de jaune, les couleurs de la Catalogne. Voilà, on va avoir une belle fête du rugby, c'est sûr, cet après-midi. C'est facile hein, pour les Perpignanais de venir se déplacer ici à Castres. C'est deux petites heures de route, plus facile effectivement par exemple que d'aller à Oyonnax, hein, par exemple.
Ah oui, c'est vrai, c'est différent. Tu en sais quelque chose, Julien?
Oui, effectivement, Oyonnax, c'est pas à côté de vous. Hein.
C'est un peu loin de tout.
C'est la montagne. Hein.
Merci Arnaud, tu bouges pas, on te retrouve dans quelques instants. 14h pour le coup d'envoi de ce Castres Montpellier, n'importe quoi, Perpignan, je vais y arriver, il y a des matchs tous les jours en top 14. 13h48, l'Intégral Sport revient tout de suite pour le coup d'envoi, à tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
R54, bienvenue à tous sur RMC dans l'Intégral Sport. Bonne fête à vous, on est avec Julien Brugnot. Ça va Julien?
Écoute, très bien, ouais. Hâte de voir ce dernier match de l'année 2023.
Hein. Les choses sérieuses vont commencer maintenant, on en a beaucoup parlé de ce Castres Perpignan, le coup d'envoi c'est dans 5 minutes maintenant. On est avec Arnaud Souk depuis Pierre Fabre pour nous faire vivre cette ambiance. Ça va Arnaud?
Oui, ça va très très bien, écoute, l'ambiance qui est en train de monter avec des enfants qui vont accueillir les joueurs sur la pelouse, avec la mascotte Captain CO également présente avec ses cheveux bleus, évidemment le bleu des couleurs du Castres Olympique, qui va donc recevoir les Arlequins rouges et jaunes de Perpignan aujourd'hui, les Catalans 13e du classement face à des Castrés, donc 6e, et qui espèrent pourquoi pas terminer 2e du championnat à l'issue de cette 11e journée. Terminer à l'issue de cette 11e journée, il restera derrière 15 matchs de saison régulière, mais en tout cas ça en dirait assez long sur la forme de ce Castres Olympique en cette première partie de saison du top 14 2023-2024. L'entrée des joueurs dans quelques instants sur la pelouse, l'occasion de vous donner les identités des hommes du corps arbitral. Vivien Pradry au centre, assisté de Thomas Charabas et de Frédéric Chazal, et puis à la vidéo aujourd'hui Denis Grenouillet.
Comment tu le sens ce match Julien, entre Castres et Perpignan? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu pour les Castrés et puis aussi pour l'USAP, parce que mine de rien, la victoire, la défaite de Montpellier hier soir leur permet d'avoir un peu d'air.
Écoute, très sincèrement, je pense que le CO devrait quand même faire un grand match aujourd'hui. Ils ont de l'enjeu, notamment finir à la seconde place, ça leur permettrait de voir un peu voir l'avenir un peu plus avec de sérénité. Mais ce fameux enjeu pour eux peut-être est un sujet de crispation de la part du CO, et là dans ces cas-là je pense que l'USAP pourrait s'y engouffrer, en tout cas pour perturber un peu la fête du CO.
Tu le vois comme ça, effectivement. Tu y crois vraiment, ou tu penses que... Parce que Arnaud, on va pas dévoiler les dessous de l'Intégral Sport, mais tu m'as quand même dit que ça sentait pas très bon pour l'USAP aujourd'hui.
Les dessous de l'Intégral Sport. Ouais. Qu'est-ce que sont les dessous de l'Intégral Sport? C'est un coup de fil qu'on a eu quand j'étais en voiture ce matin.
Tu vois,
avec un kit main libre, hein, je le précise. Voilà, mais un petit coup de fil, effectivement, qu'on a eu en voiture, où Flora, je t'ai dit, bon, quand même, on va pas se mentir, c'est compliqué pour
l'USAP. Ça sent un peu la valise, l'USAP. Tu m'as dit.
Ça sent quoi, j'ai dit?
La valise.
Ça sent la valise, oui. Oui, mais alors pourquoi? Alors c'est pas très sympa de ma part de dire ça, mais j'ai voulu être assez imagé avec toi, Flora, pour que tu comprennes que effectivement l'USAP depuis le début de la saison en déplacement c'est 44 points de moyenne encaissés. Donc oui, quand je parlais de valise, mais après tu peux encaisser 44 points et pas forcément prendre une valise. À l'image, on va encore en reparler de ce match du côté d'Arnès Vallon du stade toulousain où on avait vu des Perpignanais plutôt en verve. Ça sent la valise. On va voir comment va se dérouler ce début de rencontre. Je vous rappelle quand même un des hommes forts du côté de Perpignan, Mathieu Acebes, qui est placé à l'aile, Geronimo de la Fuente au centre, le capitaine argentin. On a Sawailou également au centre, on a Louis Dupichot placé à l'arrière, on a une troisième ligne dont tu me diras des nouvelles, j'en suis sûr, Julien, avec Joaquin Oviedo, Lucas Bachelier et Sotala Faasso. Et puis du côté Castré, les gros points on va dire de cette compo, avec une charnière Santiago Arata, Pierre Poplin, c'est-à-dire l'un des meilleurs marqueurs d'essai du championnat et l'un des meilleurs réalisateurs du championnat, l'un des meilleurs marqueurs de points au pied du championnat, Pierre Poplin. Et puis derrière c'est quand même très solide, Filippo Nacozzi, Vilimoni Petitou, Adrien Séguré, Nathanaël Hulleux et Julien Dumoral, très expérimenté Castré, arrière Castré, donc placé aujourd'hui au poste de 15.
Effectivement, Julien, ce match, on voit l'ambiance d'ailleurs dans les tribunes. T'en as vécu toi des matchs le 31 décembre ou pas?
Oui, alors celui qui m'a marqué le plus, toi j'étais en Irlande, mais parce que c'était vraiment la fête, c'était le Boxing Day, et puis après il y avait les matchs qui suivaient. Mais après non, en France oui, je crois que c'était un match, les débuts des matchs à midi. C'était pas.
T'aimes bien ça, je sens que t'aimes bien.
Non, je déteste. S'il y en a qui m'écoutent, le match de midi c'est une erreur.
Mais jouer un 31 décembre, c'est quand même particulier, ou alors on se conditionne quand un match tout à fait normal comme le reste
match,
de l'année.
C'est un match tout à fait normal, hein, après tout. Non, l'année dernière on avait eu la polémique, ces fameux matchs pendant la période de Noël. Bon, à partir du moment où il y a un calendrier, on le respecte. Et puis, de toute façon,
c'est vrai que c'est propre quand même au top 14.
Pourquoi on
n'a
pas 3 semaines? Oui, mais bon, au moins ça meuble un peu. Et puis, en l'absence du foot, qui est un peu notre concurrent direct, ça permet de prendre un peu des parts de marché.
Bah, tu parles du foot quand même, ça a été fait hein, depuis quelques années. Désormais, les Boxing Day, le rugby à Noël, comme le disait le slogan de la Ligue nationale de rugby il y a quelques années, quand ça avait été mis en place, alors que les 30 acteurs de la rencontre vont faire leur entrée sur leur terrain de Pierre Fabre, ça a été mis en place il y a quelques années aussi pour satisfaire les supporters pendant les périodes des fêtes, pour leur proposer du rugby, pour exister aussi tout simplement face au football, tu l'as bien dit, mais sur le modèle de ce Boxing Day du football anglais, où on voit voilà les plus grands clubs, Arsenal, Liverpool, Manchester United, etc., jouer pendant la période des fêtes. Ben voilà, là c'est pareil, les supporters de rugby en ont pour leur argent et pour leur émotion, que ça soit à Noël ou au jour de l'an. Et dans quelques instants, eh bien ils vont avoir cet ultime match de la 11e journée du championnat de France de rugby ici à Pierre Fabre, avec le coup d'envoi qui va être donné par les Castrés, short bleu foncé, maillot bleu plus clair, et face à eux des Perpignanais tous de jeunes, vêtus sur le haut du corps et avec le short rouge et les chaussettes rayées des Arlequins. On va attendre évidemment qu'il soit 14h tout pile pour donner ce coup d'envoi. Je vous en parlais, c'est Pierre Poplin. Ben oui, ça y est, voilà, tu vois, c'est même affiché ici au stade, apparemment on a les mêmes horloges. En tout cas, on regarde le chronomètre du côté de Vivien Pradry, on lève le bras, et Pierre Poplin va donc pouvoir donner le coup d'envoi de ce match entre Castres et Perpignan. C'est parti donc pour un premier coup de pied de Pierre Poplin, qui va être récupéré facilement par Sotala Faasso du côté perpignanais. Phase classique, on est sur la ligne des 22, on va former le ruck, le ballon qui va être sorti par Tom Ecochard, le demi de mêlée, probablement peut-être pour essayer de faire un coup de pied d'occupation, en tout cas pour se dégager de la part de Tom Ecochard. On va gagner une vingtaine de mètres, et Mathieu Acebes qui vient en contact et qui est en contact avec Dumora, a mis le Castré en difficulté, même si les Castrés peuvent récupérer ce premier ballon avec la charge de Thomas Staniforce et ses cheveux reconnaissable entre mille, le deuxième ligne australien de cette équipe du Castres Olympique. On tente d'occuper le terrain du côté Castré, mais le ballon est rendu finalement au Perpignanais et Tommaso Allan, le demi d'ouverture italien, qui lui va carrément mettre le ballon dans les 22 Castrés. Toujours 0-0, une minute de jeu ici à Pierre Fabre.
Quelle est la stratégie comme ça en début de match, Julien? Quand on est à domicile, c'est à nous de faire le jeu a priori.
Ah, et ben effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on voit, les Perpignanais, à chaque fois qu'il y a des jeux au pied, hein, qui investissent, ouais, leur temps, ils renvoient au ballon, ils veulent pas pas, surtout pas jouer leur camp, mais on voit beaucoup de dynamisme de la part des Perpignan, des castrés, pardon, moi aussi j'ai du mal. Trop
match. Ouais, c'est ça, on se mélange entre tous les matchs depuis hier.
C'est clair, ils veulent occuper le camp perpignanais.
On a failli avoir un petit 22-50 intéressant de la part de Thomas Wallan. Si le rebond avait été favorable, les Perpignanais auraient pu récupérer une touche sur ce coup de pied sur la ligne des 40 dans la moitié de terrain Castres. Mais ils ont toujours le ballon, justement, les Perpignanais, avec Louis Dupichot qui est allé au contact. On est obligé de repasser par le sol. On est revenu dans la moitié de terrain perpignanais. Le ballon qui va être sorti par Tommy Cochard. Est-ce qu'on va peut-être essayer de faire un coup de pied par dessus pour continuer cette action? Qu'est-ce qu'il va faire Tommy Cochard? C'est précisément ce qu'il fait, avec une grosse chandelle qui va atterrir au niveau de la ligne des 50. Et encore Mathieu Assemès à la réception, et les Perpignanais qui l'ont toujours. On a gagné une vingtaine de mètres sur ce coup de pied, mais on est obligé de repasser par le sol. On le voit beaucoup, hein, Mathieu Assemès, depuis le début de cette rencontre. C'est aussi ça la force de ce garçon. On en parlait au début du match. Il est placé pour la première fois de la saison à l'aile côté perpignanais. C'est vraiment un profil très très intéressant, Julien, pour les Perpignanais.
Ah oui, c'est un joueur qu'on entend beaucoup parler, hein, souvent aux médias et même dans le groupe. Et c'est quelqu'un aussi qui allie les actes aux paroles. Et c'est vrai que sur le terrain, il est exemplaire. C'est d'ailleurs pour ça certainement qu'il est aussi apprécié par le peuple catalan.
Allez, avec la récupération de Dumora qui a pu donner côté castré sur Abraham Papali, le nouveau coup de pied signé Dumora pour se dégager, récupéré par les Perpignanais, en l'occurrence par Louis Dupichot qui a pu donner sur Thomas O'Hallan. Le coup de pied de pression de Thomas O'Hallan, mais il n'y aura personne côté Perpignanais à la réception. Et du coup, ce sont les castrés qui l'ont récupéré, avec Papali qui a pu gagner quelques mètres. On est sur la ligne des 40 toutefois dans le camp castré, avec une récupération qui aurait pu être signée Veredamou côté perpignanais, mais finalement les castrés qui ont toujours le ballon, qui vont tenter d'accéder à la moitié de terrain perpignanais. Pour l'instant, c'est bien défendu. Attention, on s'est passé du côté castré avec le slalom dans la défense perpignanaise. Ça pourrait, pourquoi pas, provoquer le premier essai. Le premier essai, Santiago Arata qui ouvre la marque pour les castrés. L'Uruguayen qui vient marquer le premier essai de cette rencontre après 3 minutes et 25 secondes de jeu ici au stade Pierre Fabre. Santiago Arata qui marque les premiers points pour les castrés. Ça fait 5-0, 3 minutes 30.
Ah, j'allais faire l'éloge en tout cas de la défense perpignanaise qui arrivait à repousser les assauts aux castrés. C'était sans compter ce jeune, cette pépite Arata, hein, qui brille de plus en plus dans cet effectif castré. Mais en tout cas, après, quel exploit, parce que il perd son niveau des 50.
Ouais,
et après quand même, il fait une revue d'effectif du plan profond de Perpignan.
Il amuse.
À un moment, il voit le coup, hein, il voit qu'il n'y a personne 3, qui a pu le suivre. Ah, il a accéléré. Et il va finir entre les poteaux.
Cette course un peu croisée aussi pour éviter ça.
On le voit au début, hein, c'est intelligent. Donc il perce, il break la ligne, il attend un peu le soutien, personne vient à lui. Et du coup, après, il met un grand coup d'accélération, un coup de rein. Alors, c'est vrai que c'est un joueur quand même qui est très pétillant, avec du caractère. C'est vraiment un joueur à suivre.
Pétillant, c'est pour le champagne de ce soir?
Non, c'était. Voilà, exactement.
Je suis un peu partagé quand même, hein, sur la défense, pour le coup.
Ah bah, il le repousse, en fait, c'est juste par rapport au fait qu'il le repousse à chaque fois et qu'il gagne ce jeu du ping-pong à chaque fois. Mais bon, il a fallu quand même un exploit, parce qu'on a vu beaucoup d'utilisation du jeu au pied de la part des castrés, parce qu'en fait, ils avaient du mal à trouver les solutions. Hein.
Ça passe sans faire penser à l'essai de Tamboué, hein, l'autre jour, enfin l'un des essais de Tamboué, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui avait passé en revue toute la défense de Clermont pour marquer un essai. En tout cas, il est transformé, celui-ci, d'Arata, par Pierre Popelin, qui en est désormais à 115 points depuis le début de la saison au pied. Le Castres Olympique mène 7-0 face à Perpignan. Ici à Pierre Fabre, on joue depuis 5 minutes de jeu.
C'est parti fort dans ce dernier match de la 11e journée du Top 14, dernier match de l'année aussi en championnat. Et en cette fin d'année, justement, on va aussi faire le bilan de cette première partie de saison de sport d'hiver, cette fois-ci avec notre vice-champion olympique de slalom et consultant Sébastien Amier. Salut Bastoun!
Salut Flora, bonjour à tous et à toutes.
Bonne fête à toi aussi, tiens, c'est l'occasion.
Merci.
Une année 2023 qui s'est terminée en folie, hein, pour le sport blanc français, avec la victoire de Cyprien Sarrazin sur la descente de Bormio. Victoire aussi inattendue qu'historique, Bastoun. Hein.
Ouais, alors inattendu pour les connaisseurs, pas forcément, pour le grand public certainement plus. C'est vrai que Cyprien, on le voit maintenant depuis l'année dernière monter en puissance sur les entraînements. Il était présent vraiment, voilà, il mettait la barre haute sur les entraînements et pas beaucoup de réussite sur la course. Cette année, ça a été un petit peu la même chose sur le début de saison, mais c'est pas parce que la course n'avait pas lieu, hein, puisqu'il y a Beaver Creek qui gagnait le premier entraînement et derrière tout a été annulé. Et puis il a su justement prendre de la patience, parce que des fois on pourrait s'énerver un petit peu. Bah, lui, il a pris cette patience-là. Il est arrivé à Val Gardena en les chatouillant un petit peu, en faisant deux belles quatrièmes places en descente et en super G. Et puis derrière, à Bormio, sur une piste très difficile avec des conditions exigeantes, il a su vraiment hausser le curseur pour aller chercher cette belle victoire qui manquait au ski français depuis 8 ans. Voilà, c'est beau, chapeau à lui. Et puis je pense que ça va encore... il va falloir le craindre cet hiver sur des descentes techniques engagées. C'est un ski qui a toutes ses un skieur qui a toutes ces qualités-là pour réussir sur beaucoup de pistes.
Ouais, justement, c'est un skieur au parcours un peu atypique aussi, spécialiste du géant à la base, avant de se reconvertir dans la vitesse. Beaucoup de blessures, des débuts tardifs en Coupe du Monde. Et finalement, eh ben, c'est lui qui ramène cette première victoire en Coupe du Monde cette saison à l'équipe de France. Voilà pourquoi je parlais d'inattendu aussi quelque part.
C'est clair, comme quoi la patience finit toujours par payer, hein. C'est vrai que c'est un athlète qui a eu des soucis de santé. Et bon, le dos, il ne l'a pas soigné comme ça par magie et par hasard. Hein. Je pense que son dos, il est encore délicat tous les jours, tous les matins. Il sait que maintenant, tout le bonheur qu'il peut prendre à skier vite, quand son dos le laisse tranquille, ben, il en profite. Et c'est là peut-être où il a mûri. C'est que peut-être avant, il avait aussi ses douleurs qui se créaient peut-être par une exigence peut-être trop haute par rapport à un résultat. Et que peut-être qu'il a fait l'inverse, et que maintenant que le résultat est là, il aura peut-être moins mal au dos et qu'il pourra enfin faire son ski libéré. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais c'est un garçon, voilà, qui est en plus extrêmement sympa, qui est, on l'a vu hein, d'ailleurs dans l'air d'arrivée, il y a eu des accolades de toutes les équipes, de toutes les nations et de tous les coureurs. Et ça, c'est ce qui plaît au ski, au sport individuel aussi. Et puis moi, j'ai de bons rapports avec lui. C'est vrai que c'est un mec que je vois skier de temps en temps, et j'arrivais toujours à discuter vraiment de ski avec lui en lui donnant deux, trois petits conseils. Et quand je le vois gagner comme ça, ben ça me met encore plus la banane.
Ouais, il était l'invité de l'Intégral Sport de François Pinet jeudi. Après sa victoire, Cyprien Sarrazin, il revient sur l'importance du mental dans sa saison jusque-là.
Et là, ça fait deux mois, on va dire. Bon, déjà depuis l'année dernière, je sens que je suis à l'endroit auquel je veux être. Là, c'est sur la vitesse. Et... mais là, vraiment, cette année, ouais, depuis deux mois, depuis les États-Unis, je vibre. Vraiment, je sens que c'est là que je dois être. Et j'attribue cette progression vraiment au niveau mental. Voilà, je pense que c'est vraiment le mental cette année, depuis ma blessure l'année dernière, avant les mondiaux, où je me suis dit, j'étais dans mon canapé, et je regardais la course, j'ai dit, non, je ne veux plus revivre ça. Je vais tout mettre de mon côté. Qu'est-ce que je dois faire? Je le savais déjà, mais je devais me retrouver vraiment, savoir qui je suis. Ça va même plus loin, je pourrais en parler un peu plus, mais ouais, c'est vraiment qui je suis en tant qu'homme et pour skier enfin comme je sais faire.
Cyprien Sarrazin au micro d'RMC, c'était dans l'Intégral Sport. Il est 14h09, on suit Castres-Perpignan 7-0 pour le moment pour le CO à Pierre Fabre, et on est avec Sébastien Amier pour nous parler un petit peu de ce bilan de fin d'année des sports blancs français. On a parlé de la victoire de Cyprien Sarrazin, parlons de l'autre homme bastoum qu'on va suivre cet hiver en équipe de France évidemment, c'est Alexis Peintureau qui, comme Cyprien Sarrazin d'ailleurs, mais plus récemment, a décidé de se tourner vers la descente. Et pour des débuts, c'était pas si mal avec ce top 10 à Bormio, hein.
Eh oui, nouvelle partie de seconde carrière pour Alexis, hein, comme il nous l'a dit. Voilà, il mise tout maintenant sur la vitesse avec la descente comme point d'orgue, puisqu'il a gagné dans toutes les autres disciplines. Donc c'est vrai que ça lui tient à cœur d'aller s'imposer en descente. Et ben la mise en matière et l'entrée en matière a plutôt été bonne, comme il l'a expliqué hier soir sur nos antennes. Il y a eu des bonnes choses, des bonnes sections, des bonnes parties. Maintenant, il n'arrive pas à faire de tout de haut en bas. Donc, ça va aussi s'apprendre avec les prochaines échéances qui arrivent. Aussi, connaître les pistes, hein, sur lesquelles il va les découvrir, hein, les pistes techniques exigeantes qui vont lui demander aussi de l'apprentissage. Mais en tout cas, le garçon, il a tout pour bien faire, on le sait. Hein, il s'est étoffé un petit peu avec son physique pendant l'été. Quelques kilos en plus qui vont lui donner de l'inertie sur les skis. Et puis l'engagement, ça, on ne peut pas lui enlever. La force physique, il l'a. Donc maintenant, voilà, il va falloir trouver cette justesse pour que tout se mette en place et puis que ça se fasse. Mais moi, je crois vraiment en son pari, parce que peut-être pas sur toutes les descentes, mais en tout cas sur des descentes techniques, il est capable de sortir vraiment du grand ski.
On connaît justement l'exigence d'Alexis Peintureau avec lui-même. Il a de vraies ambitions dans cette discipline.
Non, figuration, clairement pas. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Dans la première, ça a surtout été de la motivation. Une nouvelle motivation, aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui change de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'avais besoin de ça pour la fin de ma carrière, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir par le passé. Maintenant que j'ai tourné un peu cette page et que j'ai trouvé une nouvelle motivation, il est clair que maintenant, l'objectif, c'est de devenir performant. Donc, ça peut prendre du temps, ça j'en suis parfaitement conscient. Après, bien entendu, le but c'est quand même que j'arrive à progresser le plus vite possible, que je prenne des repères le plus rapidement possible. Ce qui peut prendre un peu de temps, c'est trouver les bons réglages avec le matériel, parce que quand on est à l'entraînement, c'est une chose, mais on n'arrive jamais à aller sur des vitesses aussi importantes que sur les épreuves de Coupe du Monde.
Et tu y crois, une victoire en Coupe du Monde en décembre cette saison pour lui, Bastoun?
Écoute, moi je pense que ça peut accélérer les choses, surtout quand tu as déjà un Français qui gagne, qui te monte la voie. Ouais, ça aussi, ça peut booster voilà, la bonne dynamique. Et puis ce nouveau défi. Alors c'est vrai qu'Alexis, ça fait quelques années qu'il enchaîne toutes les courses, hein, tout l'hiver, des programmes très chargés avec la préparation physique spécifique pour le slalom, le géant, le super G et la descente. Donc ça, une mixité de beaucoup de journées d'entraînement, de tests de matériel, comme il l'a dit, hein, il nous l'a expliqué, le matériel a une grosse importance et encore plus en descente. Maintenant, voilà, et ben on va lui laisser le temps, mais si on aimerait accélérer le temps, ben pourquoi pas.
On y croit en tout cas. Merci beaucoup, Bastoun.
Et puis, on peut quand même dire un petit mot sur Clément Noël. Hein, Clément Noël qui a fini deuxième à Madonna di Campiglio pour le deuxième slalom. Il était là déjà à Gorgueul avec une deuxième manche où il est passé un petit peu à côté. Mais en tout cas, le ski français se porte bien et je pense que 2024 peut être bon. Donc j'aimerais souhaiter à tous les athlètes une très bonne année, à toute l'équipe d'RMC surtout, et puis une spéciale dédicace où je suis actuellement à Courchevel, au stade Club des Sports Ineos, où Karim est un fou avec ses équipes de foot. Et il suit RMC en permanence. Donc voilà, c'était ma petite mission du jour.
Merci beaucoup, Bastoun. On se retrouve évidemment dès le week-end prochain sur RMC pour le retour de la Coupe du Monde. Ce sera Adèle Boden. Merci beaucoup, Bastoun. On retourne du côté du CO rapidement pour faire le point avec toi, Arnaud, entre Castres et Perpignan.
Toujours 7-0, cet essai d'Arata transformé par Poplin à la 5e minute de jeu. 7-0 en faveur du Castres Olympique. On joue depuis 14 minutes ici à Perfabre.
Allez, 14h13 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC
défi hippique
avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut Flora, salut à tous. Effectivement, c'est l'heure du défi hippique avec aujourd'hui un superbe Quintet Plus qui a lieu à 15h15. C'est le prix de Bourgogne, la 5e course qualificative au prix d'Amérique. Et pour ce défi hippique, on a au 32-16 toujours Mathieu. Salut Mathieu.
Salut.
Comment ça va en ce 31 décembre?
Bah impeccable, hein. On a un beau Quintet qui nous est proposé aujourd'hui pour finir l'année. On va se régaler.
Et du coup, bah voilà, quel est ton favori dans ce Quintet?
Ah, moi j'ai choisi l'As Onek, déféré des 4 pieds, il a un bon numéro, il va pouvoir partir vite et choisir les bons dos, donc je pense qu'avec le bon parcours, il va disputer la victoire, donc c'est mon cheval du jour.
Ok, c'est noté, merci Mathieu. Je rappelle que cette course est disputée sur 2100 mètres, départ autostart, et que le numéro 7, Money Viking, a été déclaré non partant. Du côté de la Dream Team des courses RMC, on va lui opposer le numéro 10, Okai Dojiel, un concurrent qui a déjà très bien fait sur ce parcours, puisqu'il avait gagné un groupe 1 au mois de juin dernier sur 2100 mètres. Il part en seconde ligne derrière la voiture, mais il part derrière ton numéro 1, Onek, donc si ton concurrent s'élance vite, lui, il risque de bien partir également et de se retrouver bien placé. Et pourquoi pas tracer une très belle ligne droite pour prendre une place dans le Quintet Plus. Je rappelle la règle, Mathieu. Si ton numéro 1 Onek termine devant le numéro 10 Okai Dojiel, tu seras de nouveau avec nous demain. Je te souhaite bonne chance et un très bon quartier.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Fred, on te retrouvera tout à l'heure pour le Quintet. Allez, ça pousse pour les CO à Castres face à Perpignan, Arnaud.
Oui, avec Mathieu Acébès qui a aplati dans son but, sans quoi Julien Dumorat aurait pu bénéficier d'un jeu au pied de l'un de ses coéquipiers pour aller aplatir et marquer un deuxième essai. Les Perpignanais qui se sont relancés de leur en but, mais Mathieu Acébès a raté un plaquage, ce qui fait que les Castrés ont pu continuer à avancer. Ils sont désormais dans les 22 Perpignanais. On va aller pousser avec Tyler Hardon, le Canadien qui a avancé, qui est quasiment à 10 mètres mètres désormais de la ligne perpignanaise. Attaque qui peut donner sur Staniforce. Staniforce qui va aller percuter de nouveau la défense. On est quasiment cette fois-ci sur la ligne des 5 mètres et les Perpignanais qui vont même se faire pénaliser, ce qui fait qu'on va avoir l'occasion pour les Castrés de marquer des points. Reste à savoir ce que l'on va décider du côté Castré. C'est 3 points quasiment donnés, Julien. Toutefois,
dès que ça accélère, voilà, ils ont du mal à se replacer défensivement parlant, et c'est vrai que c'est dommage. Mais en plus, il y a une deuxième mauvaise nouvelle quand même, parce qu'il y a quand même leur talonneur.
On va prendre les 3 points.
L'âme, hein, c'est ça, l'âme qui reste sur le terrain.
Oui, absolument, qui est en train de se faire soigner, qui manifestement a un problème au niveau du genou gauche, ou en tout cas au niveau de la jambe gauche. On est en train de, du côté des médecins, en tout cas, de faire des mouvements, hein, sur sa jambe gauche. C'est vrai que ça serait pas forcément une très, très bonne nouvelle, hein, côté perpignanais, de perdre son talonneur aussitôt. Mais non, ça va aller, ça se relève du côté de Célala l'âme, et on va pouvoir marquer peut-être 3 points supplémentaires du côté de Pierre Pop. Je vous rappelle le score, 7-0 en faveur du Castres Olympique. On joue depuis 16 minutes et 40 secondes ici à Pierre Fabre. C'est facile, c'est face au poteau, c'est à 12 mètres des perches. Autant dire que le pied gauche de Pierre Popelin, a priori, ne devrait pas vaciller sur ce coup-là. Pierre Fabre qui fait silence. C'est parti pour Pierre Popelin, et ça va passer entre les perches. 10-0 pour le Castres Olympique, 17 minutes de jeu ici à Pierre Fabre.
Bah, le score qui reflète pas vraiment, hein, le score, hein, pourquoi, le match, hein, parce que bah, les Perpignanais qui quand même proposent, après voilà, ils sont un peu fébriles, il y a des pertes de balles un peu trop facilement dans les regroupements, mais bon, en tout cas ils font un bon match pour moi, et les Castrés au contraire, hein, qui
réaliste, hein,
devraient, ouais, c'est ils sont réalistes parce qu'ils se débarrassent beaucoup du ballon au pied, notamment tout à l'heure sur la récupération, Botitou qui tape un grand jeu au pied, ou assez bien sympathie dans le but. Voilà, pour l'instant c'est les Perpignanais qui font le jeu, et mais pour l'instant ils sont menés 10-0.
La réaction du coup de l'USAP, 14h17 sur RMC. L'Intégral Sport revient tout de suite avec Julien Brugnon. On va continuer de parler rugby avec Camille Lopez, le demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais qui a battu le Racing hier soir. Il sera notre invité dans quelques minutes. À tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
14h19, on est de retour sur RMC avec Julien Brugnon dans l'Intégral Sport. On parle rugby, évidemment, c'est la fin de la 11e journée avec ce Castres Perpignan. On attendait la réaction de l'USAP, Arnaud Souk, et finalement c'est les Castrés encore qui sont en attaque.
Les Castrés qui continuent à pousser, les Perpignanais qui ont encore été pénalisés une énième fois, ce qui permet aux Castrés de continuer à avancer, même si là sur ce coup-là ils ont perdu le ballon, et ça va permettre à Tommaso Allan d'aller trouver une touche quasiment sur la ligne médiane, une touche qui sera en faveur des Castrés. Je vous rappelle le score, 10-0 en faveur du Castres Olympique, et c'est Darata transformé par Popelin, une pénalité de Popelin il y a quelques instants, et donc on joue depuis 19 minutes et 30 secondes ici à Pierre Fabre.
Julien?
Oui, Flora.
Merci. Flora. Non, je me disais, moi j'attendais plus la réaction de l'USAP, mais Arnaud l'a dit, ils sont pénalisés aussi assez souvent, donc ça permet à Castres à chaque fois de repartir.
Ouais, effectivement, mais après voilà, je pense que les Castres aussi une politique un peu de, ils laissent faire un peu les Perpignanais, voilà, ils ont du jus, ils les laissent faire leurs erreurs, ils vont exploiter leurs erreurs, ils sont très on va dire opportunistes, ils ont raison. Après tout, c'est aussi une formule de pas se faire contrer en minimisant le jeu. Surprenant, parce que les Castrés, on le disait tout à l'heure, hein, produisent un jeu très agréable depuis le début de saison. Je pensais qu'ils allaient un peu plus prendre le jeu à leur compte, mais bon, pour l'instant voilà, ils sont un peu minimalistes.
Oui, avec ce coup de pied dans la profondeur là de Dumora qui finalement a trouvé Louis Dupichot côté perpignanais, le dégagement un petit peu c'est quoi l'inverse de brosser, c'est comment on appelle ça, de l'extérieur du pied, bon bref, voilà,
ah bah, l'extérieur, un petit extérieur,
ouais, l'extérieur, voilà, l'extérieur du pied de la part de Louis Dupichot qui a trouvé Dumora, et Dumora lui la longue transversale pour aller trouver une touche sur la ligne des 22 perpignanais. 20 minutes et 30 secondes de jeu, toujours 10-0 en faveur du Castres Olympique. La touche à venir en faveur des Perpignanais, mais dans leur moitié de terrain.
Fou week-end de top 14, évidemment, sur RMC. On a vibré hier avec la victoire sur le fil de Bayonne face au leader, le Racing 92. Et l'un des artisans de cette victoire de l'Aviron est avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille Lopez.
Bonjour Camille. Bonjour.
Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous en ce 31 décembre. Merci, c'est rare. Et félicitations pour cette victoire.
Merci, c'est gentil.
Est-ce que du coup vous avez fait quand même la fête un petit peu hier soir, ou vous réservez pour ce soir?
Bon, on a fait un petit peu hier, mais tranquillement, calmement, et aujourd'hui on va refaire un petit peu, mais On va faire tranquillement aussi.
Ouais, parce que le déplacement à Bordeaux, il faut le préparer quand même.
Exactement. Un petit déplacement à Bordeaux qui est assez copieux.
J'ai dit l'un des artisans de la victoire hier soir face au Racing, et c'est vrai parce que c'est vous qui êtes à l'origine du dernier essai victorieux de Bayonne. Une inspiration géniale au pied pour Rémi Bagey. On est en toute fin de match, on est à la 78e minute. Il faut quand même une sacrée lucidité pour tenter et réussir un tel geste. Hein.
Ouais, après c'est pas, c'est sûr que je fais partie de l'action, mais il y a pas que moi, il y a tous les autres coéquipiers, il y a Denis Marchois qui met très bien Cassim dans l'intervalle, et il y a Rémi qui finit très bien l'action, donc l'opportunité elle est là.
Il s'est arraché quand même sur l'action à la fin pour marquer l'essai, il s'est bien arraché quand même. Hein.
Ben ouais, c'est ça, donc
pied, ouais, c'était pas facile.
Il faut le féliciter, il fait un magnifique grappon, voilà, ça se finit bien, donc tant mieux.
Excuse-moi Flora, ouais. Vous aviez défini de jouer un peu dans les couloirs parce que tu as utilisé pas mal le jeu au pied, notamment des jeux au pied pass directement pour les ailiers. C'était une des tactiques en tout cas contre le Racing qui laisse les couloirs en tout cas libres.
Ouais, on a essayé un peu de déplacer le ballon parce que c'est vrai qu'ils avaient une défense qui nous permettait de contrôler un peu sur les extérieurs et de gagner du terrain et de l'avancer assez facilement entre guillemets. On avait essayé de mettre ça en place. Après, le Racing est très en place depuis le début de la saison. C'est compliqué à déplacer.
Comme toutes les grandes équipes qui viennent chez vous, ils repartent.
Il y a un effet Jean Daugé quand même. Hein.
Ouais, je ne sais pas s'il y a un effet Jean Daugé, mais c'est sûr qu'hier, on a encore eu une petite étoile au-dessus de notre stade qui nous a permis de gagner ce match parce que c'était mal embarqué. Il faut que ça dure pour lui, que ça dure.
Et justement, quel était ton sentiment, le sentiment de l'équipe, justement, après ces deux essais refusés, alors pour moi, à juste titre, hein, parce qu'il y a des erreurs à chaque fois, mais beaucoup d'efforts, deux essais refusés. Toi, tu es le capitaine, tu vas voir l'arbitre, tu lui parles un peu, je ne sais pas exactement ce que tu lui dis, mais l'équipe à la mi-temps, parce que franchement, vous faites un bon match, vous prenez des sur contre, c'est dur quand même.
Ouais, c'est dur, c'est ce que je disais paradoxalement, je pense qu'on a fait l'un des meilleurs matchs de la saison et le problème c'est qu'on se retrouve à 17-3 à la mi-temps, on se retrouve à 20-6 je pense à la 55e ou 60e et tu te dis qu'en fait on va trois fois dans l'embut en première mi-temps, deux essais refusés et un où on finit en renvoi dans le but, en deuxième mi-temps pareil encore une fois dans l'embut ou un truc. Et tu te dis que voilà, c'est pas possible, on va jamais y arriver, et il y avait rien qui allait quoi. Moi j'ai essayé de discuter avec l'arbitre. Je pense que il faudra que je revoie le match, je l'ai pas revu, mais entre guillemets, on s'est agacé parce que c'est hyper énergivore, c'est frustrant, tu trouves des solutions, tu marques mais finalement c'est refusé, et surtout tu te fais contrer eux. Al contrario, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais quand ils sont venus chez nous, ils ont marqué.
Clairement, ils ne sont pas venus pour faire pour prendre le jeu à leur compte. Hein. Eux, ils sont venus pour créer les opportunités, saisir les opportunités que vous allez leur laisser.
Donc c'est ça. Et par contre, ils l'ont fait très très bien. Mais bon, c'est la qualité des grandes équipes aussi. Mais c'est sûr que le match hier, c'est frustrant parce que tu fais l'un de tes meilleurs matchs, je pense, qui était assez intéressant, mais tu manques d'efficacité et de petits détails et qui font que on s'est retrouvé dans cette situation. Mais bon, ça nous a souri, ça finit bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas passé loin de premier revers à Daugé.
J'ai l'impression que ce discours, ça fait depuis que tu es arrivé à la vie en Bayonnais que tu l'as, mais à chaque fois, ça, tu finis toujours par cette phrase, ça finit bien. Hein, c'est quand même bien, quand même. Il y a une belle étoile au-dessus de vous, quand même. Hein.
C'est sûr qu'on a une belle étoile. celle-là, celle d'hier, c'est vrai que l'année dernière, ça nous a souri énormément sur plein de faits de match, de fins de match qui ont été assez incroyables. Mais là, c'est vrai qu'hier, c'était encore au pire, je crois.
On est avec Camille Lopez, le demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais qui est avec nous. Est-ce que c'est le genre de victoire hier face au Racing qui fait du bien en cette fin d'année où, on le rappelle, vous étiez mené 14 points? Ça peut aussi faire un déclic pour vous, pour l'équipe?
Ouais, un déclic, je sais pas, mais c'est sûr qu'elle nous fait énormément de bien parce que on sortait d'une contre-performance à Perpignan où on était passé complètement à côté, et que derrière, si tu perds là contre le Racing chez toi, là, on va à Bordeaux, donc je vous laisse penser, comme vous voyez, la dynamique de Bordeaux, je vais pas vous faire un dessin. Et derrière, on bascule sur une Coupe d'Europe, donc tu recevais Oyonnax après, au retour de la Coupe d'Europe, enfin, c'était un calendrier. Après, tu peux vite t'embarquer dans des choses beaucoup moins intéressantes, et même au niveau du collectif, ce que je leur ai dit dans la semaine avant et comme ça, faut pas qu'on passe des semaines comme après Perpignan où, forcément on était frustrés, déçus, et un peu, il y avait un peu des visages tête en bas, mais C'est pour ça il fallait pas qu'on bascule dans une spirale comme ça, parce qu'après les saisons elles peuvent être les semaines elles peuvent être très très, très longues et voilà, donc forcément ce que celle-là, la victoire d'hier va nous faire énormément de bien, mais ça va pas nous changer quoi que ce soit. Il faut que on n'a rien fait non plus d'extraordinaire.
Camille, justement, j'en profite de te poser cette question après une victoire, une belle victoire contre le Racing. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Pourquoi vous avez du mal? Parce que cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour vous, même si vous gagnez tous vos matchs à domicile. L'année dernière, franchement, moi, vous faisiez une saison incroyable. J'attendais, comme beaucoup de supporters, certainement bayonnais, on attendait ce déclic à l'extérieur, parce que je vous voyais finir dans le top 6. Et cette année encore, vous avez du mal à l'extérieur. La défaite la semaine dernière à Perpignan, assez lourde pour moi. Qu'est-ce qui vous arrive à l'extérieur? Pourquoi vous n'êtes pas du tout la même équipe?
Je sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Je peux pas. Si j'avais la solution,
je me doute bien.
Je la donnerais, mais c'est vrai qu'on est, on montre des visages un peu différents. Mais si sur certains matchs extérieurs, on a montré de beaux visages. Je pense notamment à La Rochelle où on a répondu présent dans le combat, à Lyon où on a fait du bon et du moins bon aussi, mais on a montré de belles choses. Après, c'est trop peu suffisant pour espérer quoi que ce soit. Il faut que si on veut espérer faire un résultat extérieur, il va falloir qu'on montre. Voilà, mais il faut tous les week-ends se remettre en question et remettre la même énergie, le même engagement.
Ce championnat est dur.
Le championnat est très très compliqué, mais bon, il faut que on le sait, on peut pas. Voilà, ça peut pas être une excuse. Maintenant, on est averti, on sait ce qu'on fait. Et voilà, quand on passe à côté comme à Perpignan, c'est pas possible. On peut pas se faire rouler dessus comme ça, alors qu'on sait ce qui va se passer. Donc voilà, il faut qu'on bascule sur quelque chose de mieux, mais entre le dire et le faire, il y a un monde. Donc voilà, j'espère que petit à petit, on arrivera à faire des choses plus intéressantes.
Camille, restez bien avec nous. Juste, vous savez sans doute, il y a un match en ce moment entre Castres et Perpignan. Et Arnaud Lussap qui vient de réagir.
Réaction de l'écart, effectivement, de la part des Arlequins de Perpignan. 10-5 désormais en faveur du Castres Olympique. L'essai inscrit par Mathieu Acébès en bout de ligne. Mathieu Acébès qui était à l'origine de l'action. Essai transformé d'ailleurs à l'instant par Thomas Zoalan. Elle n'était pas évidente à mettre celle-là complètement en coin au niveau de la ligne de touche sur la ligne des 22. Ça fait désormais 10-7 en faveur du Castres Olympique. 28 minutes de jeu, je vous le disais, Mathieu Acébès qui a encore fait parler la poudre, j'ai envie de dire, sur une réception de ballon haut sur la ligne médiane. C'était un coup de pied de la part des Castrés, une grande chandelle dans le ciel Castré, et donc Mathieu Acébès à l'origine de cette action et qui a bénéficié suite à un coup de pied par-dessus de Tom Ekochard qui a été un petit peu cafouillé à l'entrée des 22 par les défenseurs Castrés. On a réussi à faire des passes sur l'extérieur et finalement à trouver Mathieu Acébès qui est allé inscrire cet essai, qui tout de suite a dit calmez-vous les gars, calmez-vous. Ça veut dire que les Perpignanais ont quelque chose aujourd'hui quand même derrière la tête. Tout de suite, Mathieu Acébès a dit à ses coéquipiers, on va rester très très calme, on peut faire quelque chose aujourd'hui. 10-7 en faveur du Castres Olympique, encore 12 minutes dans cette première période.
Ça relance, on va la suivre évidemment cette fin de première période. Mais on est avec Camille Lopez, deux demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais dans l'Intégral Sport sur RMC. Camille, vous avez récemment prolongé votre contrat jusqu'en juin prochain avec l'Aviron. Et pourtant, dans une interview parue hier chez nos confrères de l'équipe, vous parlez d'une certaine lassitude parfois lié au rugby et ses exigences au plus haut niveau. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Non, mais c'est forcément que j'arrive vers la fin et que des années sont plus, elles sont plus compliquées parce que physiquement c'est plus dur, mais c'est mentalement aussi ce que je veux dire, dans une certaine usure dans les saisons, un truc que j'ai connu par le passé. Voilà, c'est des choses normales. Je pense que plein d'autres joueurs sont dans le même cas que moi. Après
tu occupes quand même un poste, Camille, qui a responsabilité, capitaine. Ça veut dire, et puis même quand tu étais à Clermont, quand on est ouvreur et en équipe de France, c'est quand même des postes à haute responsabilité. Je comprends que mentalement, toi, j'attendais justement ta réponse par rapport à la phrase que tu avais dit. Effectivement, mentalement, je pense que ça commence à user un peu. Surtout que, alors je sais pas si t'allais à Bayonne pour être tranquille.
Avoir moins de pression.
Mais maintenant, je pense que vu tes prestations, la pression elle est quasiment double. Non, parce qu'ils comptent vraiment tous sur toi, donc ça doit pas être reposant tous les jours.
Non, mais c'est sûr, voilà, c'est surtout mentalement, c'est très énergivore. Je pense que les gens se rendent pas compte de l'implication qu'on y met, et forcément, comme tu l'as dit, c'est un poste en responsabilité, c'est ça qui me plaît, je suis un passionné, c'est pour ça que je me donne à fond et que j'adore ça. Mais c'est sûr que voilà, finalement, je suis pas venu à Bayonne pour me la couler douce. Je m'y implique comme je me suis impliqué dans les autres clubs auparavant, et je donnerai tout. Mais forcément, il y a des moments dans les saisons où t'as toujours un coup de un peu un coup de moins bien et que t'en as un peu marre du rugby parce qu'on en bouffe tous les jours et que
mais bon parce que la dimension physique elle est contenue par justement les préparateurs physiques qui font attention, il y a les plages de récupération, mais la dimension mentale finalement elle est peu perceptible, donc en fait c'est un peu chacun qui la digère, qui la gère comme il peut. Ouais. Et effectivement toi qui dois être sensibilisé certainement par les médias, par l'investissement sur les objectifs de l'équipe, sur les matchs, c'est vrai que ça doit être très pesant, ça je peux le comprendre.
Oui, mais c'est sûr, c'est ça, c'est pour ça que mais c'est un tout, mais bon, c'est même si j'ai des périodes comme ça, voilà, c'est pas pour autant que voilà, je lâcherai pas et tant que ça se passe bien et pourvu que ça dure le plus longtemps possible.
Ouais, mais t'as bien raison. Quand ça s'arrête après, que ça te manque un peu.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du vécu là.
petite question personnelle, moi, parce qu'on dit tout le temps Camille Lopez de Mauléon, mais t'es né à Oloron-Sainte-Marie, non?
Ouais, je suis né à Oloron, mais j'ai toujours vécu à Mauléon.
Je
suis né à Oloron, c'est ça.
Tu voulais rétablir une vérité, Julien, j'ai l'impression.
Non, mais ça me fracasse. Il est d'Oloron-Sainte-Marie.
Je suis Mauléonais.
D'accord.
Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport aujourd'hui. Bon réveillon à vous ce soir et puis bonne chance pour la fin de la saison. Merci beaucoup, merci. Plaisir d'avoir Camille Lopez dans l'Intégral Sport aujourd'hui. Un petit point, un temps score du côté de Castres face à Perpignan, Arnaud.
31 minutes et 33 secondes ici au stade Pierre Fabre. Le score étriqué, 10 pour Castres, 7 pour Perpignan. Un essai de chaque côté.
Allez, on va revenir dans quelques instants dans l'Intégral Sport. Il est 14h33 pour vivre la fin de cette première période entre les deux équipes. Bon,
Une action perpignanaise. J'osais pas te couper la parole, mais ça avance bien dans les 22 Castres, notamment à l'initiative de la deuxième ligne et de Mathieu Tanguy. On est quasiment sous les perches du côté perpignanais. La possibilité peut-être d'aller inscrire un deuxième essai. Attention, parce que le ballon est intercepté par les Castres et notamment par Vilimoni Botitou qui a réussi à gagner 30 mètres. Mais a priori, ça ne lui permettra pas d'aller se créer une occasion dans la moitié de terrain perpignanaise. Le ballon qui est dégagé. On en reste à ce score, 10-7 en faveur du Castres Olympique.
Il va se passer encore plein de choses dans cette fin de première période qu'on va vivre. Évidemment, dans l'Intégral Sport sur AMC avec Julien Brugnot. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
On est de retour dans l'Intégral Sport sur RMC. Bonne fête à vous. Bon réveillon pour ce soir en ce 31 décembre. Il est 14h35. On vous accompagne toute l'après-midi. Il y aura là votre magazine spécial Jeux Olympiques à partir de 16h. 3h d'émission en route pour Paris 2024 avec Christophe Cessieux et tous les invités pour vous faire vivre au mieux cette fin d'année 2023. On retourne du côté de Pierre Fabre. On va retrouver tout de suite Arnaud Souk pour ce Castres Perpignan. Très tendu dans cette fin de première
période. Très tendu et qui pourrait permettre aux Perpignanais en quelques instants de revenir à égalité après 34 minutes de jeu. Tout est parti d'un coup de pied directement en touche de la part des Castres, ce qui fait qu'on est revenu jouer dans la moitié de terrain Castres. Une touche à l'avantage des Perpignanais, le ballon bien capté, le début de Moll, mais le Moll écroulé par les Castres, ce qui fait que Tommaso Allan à 36 mètres va avoir l'opportunité d'ajouter 3 points supplémentaires dans le panier, dans la besace des Arlequins Perpignanais qui sont pour l'instant menés 10-7 sur la pelouse Castres. Il reste 6 minutes dans cette première période. C'est parfait, c'est tendu, ça passe pile entre les perches de la part de Tommaso Allan. Et le score au bout de 34 minutes ici à Pierre Fabre, et bien c'est un score de parité, 10 partout entre les deux équipes. Un essai transformé de chaque côté, une pénalité de chaque côté. Les Castres avaient bien fait d'être pragmatiques en début de rencontre, Julien.
Ouais, effectivement, mais en tout cas les Perpignanais sont en train de s'installer dans cette position d'outsider et ça peut être dangereux pour les Castres, parce que les Castres, ça va commencer à leur gratter un peu la tête, notamment dans leur jeu. Si la stratégie en tout cas c'était de laisser jouer les Perpignanais pour les contrer, je pense qu'il va falloir qu'ils se remettent à jouer.
Effectivement, les Perpignanais qui commencent à s'immiscer, on va dire, dans les consciences dans les consciences castraises. Non, mais clairement, hein, parce que depuis le début de la rencontre, la domination castraise, elle est pas du tout évidente. Hein.
Le score était les erreurs, les pénalités, les pertes de balles de Perpignan. Perpignan devrait être quasiment en tête.
Hein. Ouais, mais clairement, c'est pour l'instant une très bonne première mi-temps de la part des Perpignanais. En tout cas, bien au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer, de jusque laissé imaginer les premières mi-temps perpignanaises depuis le début du top 14 lors de ses déplacements. Je vous le rappelle, 44 points de moyenne encaissés à l'extérieur du côté perpignanais. Pour l'instant, il n'y en a que 10 et surtout 10 points marqués qui permettent aux Catalans de tenir en échec pour l'instant les Tarnais. Mais on va remettre la marche avant, notamment du côté de la troisième ligne avec Abraham Papali qui, avec ses cannes et avec sa grosse carrure, a gagné quelques mètres. Oh là là, quel énorme choc entre Stanifors qui a été bloqué par la défense perpignanaise et notamment par Sotola face au, mais le ballon qui est toujours dans les mains castrées. On est entre la ligne des 22 et la ligne des 40. On va trouver les cannes et la grande carrure de Nakosi tout là-bas sur l'aile. Le ballon qui est toujours dans les mains des castrés. On a avancé du côté de Nakosi. Est-ce qu'il va pas y avoir un en avant? Il va y avoir un en avant côté castré commis par Abraham Papali, pardon. Et donc ça va donner une mêlée en faveur des Perpignanais, en tout cas l'introduction des Perpignanais quasiment sur la ligne des 22.
Et je vais te parler, alors, pour faire plus simple, tu peux l'appeler Sauti, hein, Faasso.
Oui.
C'est plus simple parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu compliqué, mais je te parlais de Faasso, justement, l'arrivée à Perpignan, vraiment, il fait du bien offensivement parce qu'il fait avancer un peu à l'image de Papali. Par contre, il est capable d'asséner des gros plaquages en défense. Il a vraiment une grosse présence, que pour le décrire, c'est quand même un gabarit qu'on voit pas non plus très mobile, et pourtant il est souvent bien placé et souvent très pertinent dans ses interventions.
Là, c'était, il fallait se le prendre, hein, dans le buffet.
Ouais, ouais, là, j'ai
pas,
je veux dire que j'ai mal pour lui.
Faasso,
bon, ça va.
Force, c'est costaud, souvent oui. Dominant dans les contacts. Oui. Il faut vraiment deux monstres pour s'affronter.
Ouais, ouais, ouais. Là, on rappelle, hein, les carrures. Hein. On a une carrure de deuxième ligne, hein. Deuxième ligne particulièrement costaud avec l'Australien Stanifors face aux troisième ligne centre perpignanais. Ça, je sais pas si on peut qualifier la force qui a été développée au moment de l'impact, mais j'aurais pas aimé être au milieu. Oui. En tout cas, ça, c'est une certitude. À 4 minutes de la fin de cette première période, le score de parité, toujours ici à Pierre Fabre, 10 partout entre le Castres Olympique et Perpignan. Un essai d'Arata en faveur des Castrés, un essai de Mathieu Acébès en faveur des Perpignanais. On en reparlera, hein, Mathieu Acébès. On en a beaucoup parlé avant le début de cette rencontre, mais placé à l'aile aujourd'hui, il fait quand même énormément de bien le Perpignanais. Une mêlée à l'introduction de Tomé Cochard du côté catalan. La belle poussée Castres, on sort vite du coup le ballon à côté perpignanais. Ouh là là, je crains qu'il ait été chopé pour le coup Jérôme de la Fuente, le capitaine perpignanais, au niveau du coup Mathieu Babillot va être rappelé. Il est pris très très haut, et Mathieu Babillot, il fait bien de se pas trop la ramener sur ce coup là parce qu'il est quand même coutumier des altercations avec les arbitres, le capitaine castré, et il a été sanctionné, pénalisé.
Et t'es en train de dire qu'il a pris le relais de Rory Cocotte, c'est ça? Non, bon, il fallait un relais, hein. Il fallait continuer.
C'est vrai que Mathieu Babillot est quand même pas connu pour sa diplomatie.
Pourtant, il est c'est un joueur agréable à regarder. Ouais.
Ah non, mais alors, non, mais après, en soi, on n'aime pas le joueur, mais voilà, en tout cas, il n'est pas reconnu pour sa diplomatie, et c'est pas la première fois cette saison qu'il est dans le viseur des arbitres, bien que là, ils ne soient pas vraiment dans le viseur de Vivien Pradry, mais en tout cas, il a été pénalisé, on va dire, et il a été rappelé à l'ordre gentiment par l'arbitre. Il n'en a pas rajouté, le capitaine Castré. Toujours est-il que cela donne à 2 minutes de la fin de la première période une touche sur la ligne des 40 dans le camp Castré en faveur des Perpignanais. Le ballon qui est bien capté en milieu d'alignement. On va envoyer les gros, on va notamment envoyer Joaquin Oviedo, la troisième ligne, pour essayer de gagner quelques mètres. Finalement, on va jouer sur les extérieurs. Il y aura peut-être un en avant côté perpignanais. En tout cas, le ballon qui est rendu au Castré. Alors, que va dire Monsieur Pradry? Oui, c'est un en avant Castré d'abord. Il me semblait, Julien, qu'il y avait d'abord un en avant.
Je te confirme,
perpignanais.
Pour moi, un en avant, une perte de balles, enfin, un en avant perpignanais. Après, derrière, sur le jeu au pied, en tout cas, un en avant castré. Bah, écoute, en tout cas, Monsieur Pradéry est mieux placé que nous.
Je suis pas sûr qu'il soit mieux placé que moi sur ce coup-là.
Qui met toute la responsabilité sur l'arbitre. Et alors, sinon, t'as aussi. Mais Monsieur l'arbitre a toujours raison.
Alors, est-ce qu'il va pas quand même se déjuger, Monsieur Pradéry?
Il y a des qui sont là, il y a l'arbitre.
Il y a Monsieur Charabas qui est quand même là, qui pourrait l'aider à revenir sur cette décision, mais je n'ai pas l'impression qu'il... Si, voilà, c'est bel et bien un en avant perpignanais, et donc ça va être une mêlée à l'introduction des Castres. serait à l'introduction de Santi Arata, le meilleur marqueur d'essai depuis le début de la saison côté Castré. Un essai encore aujourd'hui et ça en fait 4 pour le demi de mêlée Castré. Introduction pour Santi Arata qui va pouvoir ressortir le ballon. On est dans la moitié de terrain Castré sur la ligne des 40. Je vous rappelle toujours ce score de 10 partout ici à Pierre Fabre à 1 minute et 10 secondes de la fin de la première période et une belle touche qui a été trouvée là par les Castrés dans la moitié de terrain perpignanaise à une trentaine de mètres de l'embut.
Il n'y avait pas mieux à faire, tout à l'heure je parlais du jeu des Castrés, il n'y avait pas mieux à faire quand même cette attaque, justement se débarrasser, parce que tu dis une belle touche, mais bon, je pense qu'il y avait encore un ou deux temps de jeu oui, en plus
vrai.
À faire. Ils ne sont pas dans une stratégie de gérer le match, il y a 10-10, ils doivent vite prendre le score, pourquoi pas gagner ce match avec le point de bonus pour passer à la deuxième place, donc il y a autre chose à faire que de jouer au pied comme ça. Pour moi.
C'est possible, j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne en disant touche, une belle touche, mais après voilà, le coup de pied est de bonne facture, on va dire. En tout cas, une touche qui va permettre aux Perpignanais de former la cocotte, d'avancer d'un mètre, mais finalement on est arrêté par les Castrés. Le ballon qui est probablement toujours dans les mains perpignanaises, qui va pouvoir être sorti par Tom Ecochard. Peut-être qu'on va essayer de repartir avec les gros et notamment avec Joaquin Oviedo, mais on ne progresse pas d'un centimètre sur ce coup-là. Les Castrés ont-ils récupéré le ballon? Je ne crois pas. Tom Ecochard qui laisse se dérouler le chrono, qui laisse défiler le chrono et qui va mettre le ballon en touche. Vous avez peut-être entendu derrière moi la sirène qui signifie la fin de cette première période. 10 partout le score entre le Castres Olympique et les joueurs de Perpignan ici au stade Pierre Fabre. Je vous rappelle les essais inscrits par Arata côté Castrés à la 4e minute, inscrit par Acebes côté Perpignanais à la 26e. 10 partout.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Finalement, ce score nul à la pause, Julien, c'est plutôt logique quand on a vu cette première période.
Ouais, effectivement, une équipe qui joue, qui fait beaucoup d'erreurs, hein, part de balle de la part de Perpignan, puis des Castrés un peu crispés en fait. Je pense que plus le match avance, plus ils sont crispés. Par contre, ce match nul ferait plaisir à Denis Charvet, hein, qui joue souvent les matchs nuls à la mi-temps. Ils sont rares, donc du coup,
oui, ça peut le faire.
J'espère qu'il l'a joué.
10 partout à la pause entre Castres et Perpignan. Il est 14h44, l'intégral sport revient tout de suite avec Julien Bruno pour la seconde période et puis on va parler football aussi, Julien. Je sais que ça te tient à cœur. On va parler football dans quelques instants aussi. À tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport.